Ça va être à nous. Ah, c'est à moi. Et hop, on claque la musique. C'est quoi ça? Petite country là. C'est bien ça. Pas mal ça. Bon Samuel, si cette chaîne était une chaîne musicale, ça serait. Maintenant on arrête. Comment ça va vous? Allez, il fait assez chaud. J'avais peur qu'il fasse froid dans le studio ce matin. Bizarrement, il faisait super froid dehors, mais il faisait bon dans le studio malgré l'absence de chauffage. En plus, la casquette, ça coiffe son homme. Voilà. Et j'étais surpris par la douce chaleur qui régnait dans ce studio. Peut-être que parce que le dernier stream n'est pas vieux, puisque on a streamé hier soir jusqu'à un petit peu au-delà de 23h avec l'ami The Great Review, le nom de sa chaîne en tout cas, voilà, l'ami Augustin, et c'était pas mal. 23h, 23h30, je suis resté travailler un petit peu après sur des projets à venir, dont un dont je voulais vous parler ce matin. Donc j'ai quitté le studio, il devait être 1h du matin, et de retour ce matin, 9h23. On a un petit peu dormi, on s'est fait un petit plaisir, là. J'ai regardé un Avengers là, qui vient de sortir sur Disney+, hier, un petit bout hier, tiens, il y a Donald Trump qui est dans le chat, hier soir pour m'endormir, et puis réveil à 5h ce matin pour lire les journaux, et bah, plutôt une bonne moisson avec des infos intéressantes et des articles plutôt bien foutus. Et on reparlera de cet article de Combini que j'ai trouvé excellent sur la question des sources, de la citation des sources sur Internet et notamment sur YouTube, sujet qu'on a évoqué bien sûr hier soir avec The Great Review et dont on reparlera ce matin avec cet article de Combini dont je vous ai tant parlé parce que je le trouve plutôt cool. Gags, merci pour ce 27e mois d'abonnement. Il faut que je songe à préparer les badges pour ceux qui vont arriver bientôt aux 30 mois d'abonnement. Je crois que le maxi c'est 28, comme Quick Quick 222 qui vient d'atteindre les 28. Donc il faut que je prépare un joli petit badge, il faut que j'en parle à Pépin. Kitty Cat, merci pour le 25e mois d'abonnement. Frutix pour le Prime, Imper74, Mo Moy Marsari, Piloufas, 14 Again, Enstal, Immortal Frax, Le Carap, Boogie Boops, oui c'est ça, Gigi Stellata avec un G, donc c'est pas Gigi de Jiraya, Glimmy, Quaserti, Poupidou, Marrant Lepin, Gogo 17 peut-être, Nexis 7, Poutro, Hacha, JK, Saltwater Sam, il est dur le tien. JK Saltwater Sam, ok. Blues XB Galactic 70. Où est-ce que vous avez trouvé tous ces pseudos, bordel? Kushiros, Demoniso, merci. Des soutiens, j'ai remercié ceux de la nuit aussi. Comment ça va, vous? Latossi, bonjour. Bientôt 2 ans que je te suis sur YouTube. Ah, que je te suis via YouTube? Ah, excellent. Ma première sur Twitch, ça fait bizarre. Ah, c'est drôle. Oh, c'est mignon, tu m'as pris pour un YouTuber. Je suis pas du tout un YouTuber. Je mets tous mes streams sur YouTube le lendemain à 13h pour que tout le monde puisse y avoir accès. Mais pour le coup, je suis pas un YouTuber, qui a une autre écriture, bien sûr. C'est un endroit que je trouve fascinant, d'ailleurs, que je pratique assez peu par manque de temps. Mais je suis un streamer qui poste ses lives sur YouTube. Mais en vrai, c'est incroyable. Le nombre de vues, c'est cool, en vrai. Oh, Nono l'escargot, coucou Samuel, je fais découvrir mon stream à ma mamie de 80 ans. Elle adore l'idée. Alors, je ne sais pas comment s'appelle ta mamie, Nono l'escargot, mais je la salue et je la remercie. Je vous remercie tous les deux d'être avec nous. Voilà. Par exemple, hier je faisais un petit calcul pour les sponsors qui nous accompagnent sur Samplay, donc l'émission sur le jeu vidéo du dimanche soir, celle qu'on a fait hier soir par exemple. Et donc, bon, hier il y avait du monde, hein, vraiment beaucoup de monde, et ça fait plaisir. La semaine dernière aussi avec Alex Click sur l'univers de GTA RP. Donc bah, en fait, ces deux émissions d'ailleurs ont battu ce sont mes deux nouveaux records d'audience sur Samplay, donc ça fait plaisir. Et du coup, je suis allé voir les replays sur YouTube pour voir s'il y avait des vues aussi. Et en fait, les samplays font 50 000 vues en moyenne. Ça varie beaucoup. 50 000 vues en moyenne sur YouTube. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui consomment ce live après sur YouTube. Et ça me fait bien plaisir, quoi. Voilà. Sarah Molly, qui est un pilier de la commu et qui est modo aussi, me dit quelle découverte hier. Donc, le fameux jeu Outer Wilds. Le jeu est insane, je suis amoureux. C'est vrai que ce jeu est assez étonnant, quoi. Si Sim 4 a bien aimé l'hebdo Étienne de vendredi, ça me fait bien plaisir. Après, ça me plaît, tu continueras à découvrir des jeux. Alors, Oraniri, alors, si ta question veut dire est-ce que tu joues au jeu que tu découvres dans Ça me plaît, oui. Actuellement, je joue de temps en temps pour vous faire rire à The Witcher 3, à Rocket League, à Fall Guys, à Valorant. Est-ce que je vais rajouter Outer Wilds d'hier soir? Je ne sais pas encore. Peut-être, c'est bien tentant, mais ça fait beaucoup. Et si la question est de savoir est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Ça me plaît, qui s'achève donc en juin, j'espère bien. Et j'y travaille déjà pour que, enfin, dès le début dans ma tête, cette émission, elle a au moins deux saisons à faire, quoi. Minimum. Minimum de saisons, parce que cet univers est fascinant. Voilà. VOD Samuel Mathieu, qui gère la chaîne YouTube, justement. Mathieu, je ne sais pas si tu es là depuis longtemps, mais je me félicitais des audiences de Ça me plaît sur YouTube. Nous parle pardon, d'Outer Wilds, premier jeu hier que je ne connaissais pas, et il est déjà acheté. Waouh, waouh, waouh. Donc il y aura au moins une saison 2 de Ça me plaît, en tout cas, je vais tout faire. Pour, salut Vincent 6ème pour le 24e mois d'abonnement. Merci Nono Escargot, j'avais pas vu qu'il y avait un sub. Merci pour le 4e mois. Rouliab, merci beaucoup pour le 8e mois d'abonnement. J'ai vu en replay Time Out hier soir et j'ai rêvé qu'on lisait les questions que tous les deux et qu'on se tapait des barres sur le plateau. Time Play, donc c'était mercredi dernier, mon premier grand jeu de culture générale sur Twitch. On s'est régalé avec 6 candidats formidables et c'est en replay aussi sur YouTube. Younes 347, merci pour le prime que je n'ai pas vu tout à l'heure. Bon, ça va vous? Ça va? Oh, j'ai du time play? Oh, j'ai du time. Non, c'est time out. J'ai marié le jeu de mercredi avec mon émission du dimanche. Non, le jeu s'appelle Time Out et pas Time Play. Heureusement que vous êtes là pour corriger. Voilà. C'est drôle. C'est drôle. Heureusement que vous êtes là. Vous voyez, ça, c'est l'avantage de Twitch par rapport à la télévision. C'est que quand le présentateur dit une bêtise, eh bien c'est corrigé en direct. Je remonte un peu dans le chat pour voir un petit peu s'il y a des nouvelles. Parfois, il y a des bonnes nouvelles, des examens d'embauche, des permis, des examens tout court, passés, des naissances, ou parfois un peu de peine aussi. On est là pour partager les deux, bien sûr. Un jour, mon jour, mon jour, mon jour, mon pouvoir, s'il y a des nouvelles. Donc, Talok, merci encore d'être avec nous depuis YouTube. Ça fait plaisir en vrai. Non, qu'est-ce que dit Donald Trump qui est dans le chat aussi? I wanna savoir if I can't venir to the last hebdo. I listen in the last one with Monsieur Octopus. Monsieur... Et je veux le confronter dans un debate. Bon, l'hebdo Étienne et Ça me plaît sont en vacances hein, pour 15 jours. C'est les vacances de Noël. Cette chaîne n'est pas en vacances. On va continuer à streamer toute cette semaine de l'actu du gaming tranquillou. Et la semaine prochaine, même quand je serai en Franche-Comté, des petits streams un petit peu, peut-être de talk ou de running ou de footing pour s'aérer un peu. Et la semaine d'après, on reprend ici, quoi. Mais qu'il y a 15 jours de pause pour Ça me plaît et pour l'hebdo Étienne. Voilà. Mais cette chaîne ne sera pas en vacances, bien sûr. Alexandra, bon café à toi. Merci d'être avec nous. Salut Nono, merci d'être avec nous aussi. Coloquiloco. Attends, c'est quoi ton pseudo? Coloquiloco. Ouais, Coloquiloco. Il est dur celui-ci. Est épuisé, mais t'es avec nous quand même. Le réveil a été rude pour Captain McBernick également. Parce que... Ouais, Mirette, effectivement, la nuit a été courte de mon côté, mais je suis content de vous retrouver. Franche-Comté, là, c'est la Noël en Franche-Comté. Bien content d'ailleurs. Bien content de retrouver ma belle famille, pour le coup, puisque c'est du côté de mon amoureuse. Tiens, regarde, Léonel, du côté des bonnes nouvelles que j'évoquais, je sais depuis le 1er décembre que je vais être avocate. S'il vous plaît, bravo à toi. Luc 85, bonne journée de travail et merci d'être avec nous et merci pour ce 13e mois. Eric V, merci pour cette deuxième année d'abonnement, 24 mois. Merci à tous. Partiel pour Exerfel cet après-midi qui commence un petit peu à stresser. On t'envoie de la force, ça va bien se passer. Donne tout ce que t'as. Voilà, c'est comme un combat impartiel. Voilà, donne tout ce que t'as. L'important, c'est qu'à la fin du partiel, tu regrettes pas et tu te dis ok, bonne note, mauvaise note. En tout cas, j'ai donné le maximum de ma concentration, de mon engagement. Voilà, pour les révisions, bon bah c'est fait ou pas fait, mais tu peux plus agir là-dessus. Oraniri, on pensera à toi pendant ton permis. Bien sûr qu'on essaiera d'aller au bout d'Outer Wilds, Night Grey Wolf, mais le problème c'est que je suis en train de me faire happer par cet univers du jeu vidéo et mon sommeil est en train de disparaître. Il y a Clamakin qui me dit MMG CTF a banni Samuel Etienne pour 600 secondes. Putain, j'ai été banni de ma propre chaîne. Pardon pour le putain d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai été banni? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Parce que j'ai confondu time out et time play. C'est ça? Je suis banni pour ça? Notre ami Alexandra a créé aussi sa chaîne Twitch et en live tout le week-end et me dit merci pour faire une petite pub pour moi. Alexandra, on t'aime beaucoup ici, donc oui, on fait la petite pub. Et bienvenue sur Twitch. Bien sûr. Vlachande, merci pour le 9e mois d'abonnement et pour le petit message. Azan qui dit... Azan 01 qui dit Samuel, je peux te donner un petit conseil pour Outer Wilds. Essaie de finir un jeu avant d'en commencer un autre. Mets-le sur une liste. Trop mignon. Pas bête en vrai, pas prête. Pas bête. Merci Valtum75 pour ce 22e mois d'abonnement et le gentil message qui va avec. Luc 85, encore merci. Hardrock Gamer 97, ça c'est du pseudo. Prends un troisième mois d'abonnement, merci pour le cadeau. C'est un peu Noël ce matin. Efra, encore un an, c'est encore un mois et c'est l'année, merci pour ce 11e mois. Et Maxfeu à l'instant, merci pour ce 3e mois d'abonnement. Bien sûr qu'on va parler de la CMP. Ergo, voilà quelqu'un qui suit l'actualité. Est-ce qu'on va parler de la CMP? Voilà, la CMP, c'est la commission mixte paritaire. C'est un truc dont on parle pas forcément beaucoup dans l'actualité, cette commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est un peu la dernière chance pour le projet de loi sur l'immigration voulu par le gouvernement, l'exécutif, le président, pour passer. Ça va être tendu. Bah, voilà ce que c'est quand on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée sous la 5e République. C'est compliqué. C'est compliqué depuis le début de ce deuxième quinquennat du président Macron. Et vous savez quoi? Je spoil, ça va être compliqué jusqu'à la fin. Sauf miracle, sauf dissolution, nouvelle législative et des élections qui donneraient une majorité au président Macron à l'Assemblée. Tant que le président Macron n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, c'est très compliqué. C'est un des aspects intéressants de la 5e République. On dénonce parfois la 5e comme un régime déséquilibré avec trop de pouvoir à l'exécutif, au président et au gouvernement. Quand ce pouvoir exécutif n'a pas de majorité à l'Assemblée, c'est beaucoup moins vrai. Et le président tout puissant de la 5e est un peu un roi nu, si je puis me permettre l'expression, quand il n'a pas de majorité. Ce deuxième quinquennat Macron en est la démonstration. Achtung B, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Ouais, bien sûr qu'on va parler de la commission mixte paritaire ce matin. Chambox pose une bonne question qui est très en actu. Parce que bon, la règle ici, c'est qu'au début, je vous lis un petit peu pendant une demi-heure avant de démarrer la revue de presse, parce que ça me fait plaisir, et puis j'y apprends des choses. Et nous dit Chambox, est-ce que tu as parlé du sujet de la fin de vie récemment? Vous savez qu'il y a une réflexion au niveau de l'exécutif pour proposer un texte de loi pour changer les conditions de ce qu'on appelle la fin de vie en France, la fin de vie, l'euthanasie, le suicide assisté. Il y a un consensus, enfin, il y a une majorité de Français qui souhaitent effectivement que ce cadre législatif change en France pour la fin de vie. C'est un sujet extrêmement sensible. Plusieurs articles depuis quelques jours et encore aujourd'hui en parlent en disant un texte arrive, mais le président Macron et le gouvernement prennent énormément de précautions parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Et le président Macron semble craindre en fait que ça provoque un débat extrêmement passionné, même si les enquêtes d'opinion, même si les sondages disent que les Français sont très majoritairement pour depuis des années pour une évolution de la loi actuelle qui est la loi Claeys-Leonetti qui encadre la fin de vie en France. Je vous en parle pas pour l'instant parce que je vous en ai beaucoup parlé à l'époque quand on a su qu'un texte allait arriver, notamment après le travail de... Ah merde, comment ça s'appelait ? Je ne sais plus. Le espèce de comité consultatif là, qui a fait un travail très intéressant. Et j'attends en fait que ce texte arrive parce que je trouve que c'est un peu inutile d'en parler pendant des semaines, voire des mois avant, en vous disant il y a un texte arrive, sans vous dire ce qu'il y a dans le texte. Donc je pense que moi j'attends le texte pour vous en parler. Voilà pourquoi je ne vous parle pas de ces articles. Ouais. C'est la Convention citoyenne qui a bossé sur la fin de vie ? Pareil. Je sais plus. Merci Rav22 pour ce deuxième mois d'abonnement. Ok. C'est intéressant ce que dit Rusty de Feu. On va y revenir, hein, puisque je vais vous en parler de la question des sources sur YouTube. Rusty, on a eu un échange avec Augustin, avec The Great Review hier soir sur ce drama Twitter, cette sauce, cette polémique cette semaine sur Twitter, de certains qui lui ont reproché une question de citation de source, hein, sur son travail. Et on avait un débat, lui qui était très meurtri par cette histoire, très touché et très en colère sur la manière dont certains avaient voulu le mettre dans la sauce, selon l'expression consacrée. Et moi qui essayais de l'amener sur un autre terrain, de savoir si on pouvait sortir par le haut de cette histoire, mais on va en reparler tout à l'heure, en se demandant s'il n'y avait pas une réflexion effectivement à mener sur cette question de la citation des sources sur Internet et notamment sur YouTube, sachant que lui fait un travail d'une qualité incroyable, quoi. Et là, par exemple, il y a Rusty de Feu qui dit « Je suis d'accord avec lui dans le sens que la justice sur Twitter est, plus importante, impactante de sa position, tandis que moi, je serais plus installé, voilà. Même s'il a une grosse commu, me dis-tu, il a raison de s'inquiéter car tout peut s'arrêter demain si un drama le met au fond. » Non. Je pense que même si ma position est installée, comme tu le dis, je pense que ce genre de drama peut me faire disparaître. Je l'ai craint moi-même dans le passé, avec des gens qui sont venus me chercher sur des sujets, bon, voilà, que vous connaissez peut-être. Je me suis parfois défendu avec maladresse d'ailleurs. J'en suis arrivé à la conclusion, pour avoir étudié ce phénomène du drama et de la polémique Twitter avec beaucoup d'attention ces derniers mois, que je résume ma position là-dessus. Je vous la résume à l'extrême. Évidemment, je vous passe tout ce qui m'a amené à cette position. Ma position sur les dramas Twitter aujourd'hui, qui me concerne ou qui concerne les autres, c'est que souvent, le sujet évoqué est intéressant. C'est-à-dire que le justicier, la justicière de l'Internet qui vient vous interpeller, slash parfois agresser, voilà, de façon parfois violente, c'est ça qui est un peu douloureux aussi, sur Twitter, puisque ça se passe sur Twitter ce truc, parfois le débat est intéressant. Le débat de fond est intéressant, et souvent je me dis, ouais, c'est intéressant comme débat. Le problème, donc je vous résume vraiment ma position, hein, c'est vraiment un hyper résumé, c'est la forme. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, c'est difficile, en live à Augustin hier soir, c'est que parfois le fond est intéressant. Bon, je ne sais pas, la question des rapports hommes-femmes par exemple, de la représentation des femmes dans la société, qui est un sujet que je trouve passionnant et essentiel. La question des sources sur Internet et sur YouTube, pour ce qui concerne Augustin. Et parfois le sujet est vraiment intéressant et on a envie d'en débattre, parce que ce sujet, il est important, il est essentiel. Le problème, c'est la forme du message qui vous interpelle, slash qui vous agresse. Et la forme de ce message, un, souvent, fait que vous avez envie de réagir très fort en disant mais tu m'emmerdes, hein, petit justicier, petite justicière d'Internet, qui es-tu, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour me mettre à l'amende comme ça, qui t'a fait juge finalement, hein, dans une démocratie c'est la justice qui juge, ça n'est pas n'importe qui, qui t'a nommé juge, qui es-tu, quoi, voilà. Quand la forme n'y est pas, quand on a l'impression que derrière la volonté de lancer un débat qui sur le fond est intéressant, il y a autre chose, quoi. Volonté de faire le buzz, volonté de créer du like, volonté de créer un drama, volonté de te mettre dans la sauce. Quand derrière le débat de fond, il y a autre chose, quoi. Donc ça, parfois, ça fait réagir mal. Voilà. Et donc, souvent, moi, les quelques fois où ça m'est arrivé, je me suis dit, c'est dommage, le sujet est intéressant, j'aimerais en parler. Et parfois, j'essaie d'en parler avec ces personnes-là, d'ailleurs. Mais en fait, vous vous rendez compte que quand vous commencez à vous lancer dans le débat en disant bah, « Tiens, bah, parlons-en, par exemple », vous vous rendez compte que parfois, ces gens qui sont à l'origine de cette polémique ne sont pas vraiment là pour débattre, en fait. Ils sont là... Alors parfois, la position, c'est « Ah non, mais moi, je ne veux pas débattre, moi. » Non, non, attends. Non, ça, c'est, je l'ai lu, hein, on me l'a écrit, hein, ça a été... Mais non, je ne veux pas débattre, moi. Non, non, moi, j'ai raison, moi. Donc je veux juste que tu reconnaisses que tu as tort. Alors là, quand quelqu'un te dit mot pour mot, hein, Moi, je veux pas débattre. Moi, je veux juste que tu fermes ta gueule et que tu reconnaisses que tu as tort et que tu te dises que mon tweet du 22 février 2007, il est parfait, que tu t'excuses devant tout le monde comme la merde que tu es, parce que parfois, c'est ça un peu la philosophie sous-jacente de ce genre d'accusation. Quand quelqu'un te dit, mais moi, je veux pas débattre avec toi, je veux juste que tu te dises que tu as tort, en fait, bon, tu te dis, bah non, en fait, hein, ça va pas le faire. Bon, ça c'est le premier truc. Donc c'est en fait une absence de volonté de débat. Et puis quand tu te rends compte qu'en fait, sur Twitter, qui est un endroit très particulier, sur Twitter, comme Augustin l'a fait, quand tu vois une accusation, tu réponds en disant, bah, attends, moi je suis de bonne foi, je vais essayer d'expliquer ma position, Augustin fait une vidéo de 17 minutes pour expliquer tout ça. Quand tu penses être honnête intellectuellement et de bonne foi, que tu essayes d'expliquer, tu te rends compte que ça ne sert à rien et qu'en fait, toutes tes tentatives pour répondre parfois aussi paisiblement que tu veux, que tu peux, à une accusation, eh bien, ça remet une pièce et que les gens en face de toi, qui pourtant parlent d'un sujet intéressant et d'une cause qui souvent est juste, eh bien, n'ont de cesse que de vouloir te remettre dans la sauce en disant que tu ne... Voilà. Alors moi du coup je réagis plus. Alors du coup j'ai essayé un autre truc, conseillé par plein de gens qui ont vécu ça autour de moi ces derniers temps, et j'ai essayé un autre truc pour voir, puisque les tentatives de débat, on me disait mais on veut pas débattre avec toi, t'as juste tort. Ou quand j'essayais d'échanger, en fait ça remettait une pièce, ça en finissait plus. J'ai essayé autre chose. Tous les jours, ou presque, c'est drôle parce que je voulais pas parler de ça ce matin, mais on en parlera tout à l'heure avec l'article de Combini sur les sources. Tous les jours ou presque, je vois quelqu'un sur Twitter, ça se passe que sur Twitter. Hein. T'as la vie normale et t'as Twitter, quoi. Truc de barjo, quoi. Et tous les jours sur Twitter, je pourrais vous montrer les messages. Tous les jours sur Twitter, il y a des gens très différents qui essayent de créer un drama, une polémique. Pas essayer de discuter. Pas essayer de créer un débat sain en disant, bah tiens, moi je suis pas d'accord avec toi. Samuel, est-ce qu'on pourrait pas en discuter? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Est-ce que tu penses pas que ta façon de faire ça pourrait pas être mieux faite, quoi? Non, c'est jamais ça. Hein, c'est jamais ça. C'est vraiment. Mais regardez ce gros connard. Bon, c'est vraiment. Ça manque un peu d'intelligence et de finesse, tout ça. Tous les jours, je l'ai. Je ne réponds plus. Je ne réagis plus. Même si c'est très blessant, hein, parce que quand on aime ce qu'on fait, on a envie de se défendre et de défendre son honnêteté intellectuelle. Et parfois même, on dit de reconnaître ses erreurs, parce qu'on n'a jamais... on se trompe plein de fois. Moi, j'arrête pas de me tromper dans mon travail. Et donc, les accusations de certains peuvent être aussi, et moi, ça m'arrive souvent, des occasions de se remettre en question. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours l'intention en face du débat, plutôt d'autres choses. Donc, j'ai arrêté de réagir, de répondre. Hein, et vous savez quoi? Il n'y a plus de débat. Enfin, de débat, il n'y en a jamais eu, mais il n'y a plus de sauce, il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de drama. Parce qu'en fait, ces manières maladroites, alors parfois maladroites et parfois malhonnêtes, parfois les deux, de provoquer un débat sur quelque chose qui souvent est intéressant, donc parfois c'est malhonnête, parfois c'est maladroit, quand c'est mal fait comme ça, ben moi je ne réponds plus. Et vous savez quoi? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Parce qu'en fait, ces postes-là, ces accusations, en fait, n'ont besoin que d'une seule chose pour vraiment exister, c'est votre attention, le crédit que vous allez lui donner, vous, le créateur de contenu, ou le journaliste, ou l'animateur interpellé, quoi. J'ai mis du temps à le comprendre, pourtant c'est écrit partout depuis toujours, « Don't feed the troll », comme le dit Gandalf Listari à l'instant. J'ai mis du temps à le comprendre, et maintenant que je le fais, ça marche, voilà. Et c'est dommage. Quelque part. Parce que Twitter pourrait être une magnifique agora, magnifique endroit de discussion, d'échange entre citoyens pour faire évoluer les choses sur certains sujets. Voilà. Et en fait, ça ne peut pas l'être parce que certains, parce qu'ils sont maladroits ou parce qu'ils sont malhonnêtes, eh bien, se servent mal de cet outil. Voilà. Bon. Ça, c'est ma position. Après, cette position, elle peut être totalement erronée. Ce n'est que ma vision du truc, quoi. Pardon pour cette longue parenthèse. Voilà, maintenant on arrête tout ça. On en reparlera tout à l'heure avec l'article de Combini sur les sources sur YouTube. Merci Andrea Léo pour le 13e mois d'abonnement. Merci Sacha Charge pour le Prime à l'instant. Merci Hollywood pour le 22e mois d'abonnement. Merci Rav22. Alors, je vous lis un petit peu et puis on y va. J'ai une question à vous poser. Il faut exclure ces gens de la société en les ignorant, les malhonnêtes, du moins, dit Manu Turlutu. Non, parce que moi, je pense que ce sont des gens qui sont malheureux, déjà. Je pense que ce sont des gens qui sont pas très très bien, et qui sont un peu malheureux, et qui, pour chercher autant à provoquer des débats un peu tristes et mortifères, je pense que parfois, c'est des gens... Moi, je me dis que ce sont des gens qui sont pas très très heureux, et que ouais, parfois, je les plains plus que je leur en veux, quoi. Manu de 27, merci pour le 20e mois d'abonnement. Alors, une dernière chose avant de démarrer, parce que là j'ai besoin de vous pour le coup. J'ai beaucoup de projets sur Twitch à venir. Vous avez vu Time Out mercredi. Vous avez un beau projet sur le sport que je vais officialiser dans quelques semaines, qui va nous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques, voilà, avec quelques streams événementiels, comme le jeu Time Out va être événementiel, c'est-à-dire pas une récurrence fixe, mais un jeu qui va revenir tous les 2 ou 3 mois, voilà. Donc Time Out, le projet sur le sport, je vais poursuivre mes activités, ça me plaît, l'hebdo Étienne, je l'espère, la revue de presse, bien sûr. J'ai un autre projet, et je ne sais pas si je le lance, et je voulais votre avis. Tadam! Voilà, j'ai besoin de votre avis là-dessus, parce que je ne sais pas si je me lance dans ce nouveau projet ou pas, je voudrais votre avis. À la Sterne 974, merci pour le 14e mois d'abonnement. J'ai envie, j'ai le projet, peut-être, de lancer un rendez-vous récurrent, celui-ci, voilà, une émission sur... Suspense intolérable. Merci, Don Adriel, pour le 7e mois. Sur... Suspense, c'est fou. Sur... le bonheur au travail. Voilà. Kezako. Non, ce sera pas avec Jean Castex. Même s'il est très sympa, ce bonhomme. Ce monsieur Jean Castex, en vrai, je pense que c'est le meilleur mec avec qui boire une bière. Mais ceci est un autre débat. Sur le bonheur au travail, j'ai la conviction que le travail peut être une source d'épanouissement quand le job est cool, quand la mission est intéressante, quand on est dans un milieu qu'on aime bien, quand on est entouré de gens qui sont pas toxiques et qui sont des gens sympas, les salariés, les collaborateurs autour de soi, comme les gens qui au-dessus de la direction. Moi, je suis persuadé que le travail peut être une source d'épanouissement, et qu'il y a un truc qu'on n'explique pas assez aux enfants à l'école, c'est qu'il faut parfois s'écouter soi, et c'est un truc que je vous raconte parfois, qu'il faut pas hésiter à écouter cette petite musique en soi qui vous dit que il y a un truc dans lequel vous êtes bon, quoi. Un truc dans lequel vous allez avoir du plaisir, ce qui est pour moi la même chose. Un truc dans lequel vous allez avoir du plaisir, et comme vous allez avoir du plaisir, vous allez beaucoup travailler, vous investir, parce qu'en fait, c'est juste du kiff et que c'est pas du taf, c'est ce que je fais depuis 30 ans. Et que du coup, comme vous allez avoir du plaisir, 1, 2, vous investir, 3, forcément, ça a plutôt bien marché. Parce que quand on travaille beaucoup avec du plaisir, en général, ça fonctionne plutôt bien. Et donc c'est un truc qu'on dit pas assez aux gens, mais que la difficulté de tout ça, c'est de trouver l'endroit où justement toutes vos qualités et aussi vos défauts, vos capacités sont en résonance avec ce que vous faites et le milieu professionnel dans lequel vous évoluez, et que vous êtes bon dans ce que vous faites. Et je parle de n'importe quel job. Tu vois, il y a Téné Buru qui dit c'est dire 1% des jobs. Non, moi je pense que tous les jobs peuvent être concernés. Mon papa, il faisait un métier très très dur physiquement. Mon papa était poissonnier. C'est un métier que je connais bien parce que du coup, je l'ai pratiqué enfant et ado et jeune adulte en travaillant dans la poissonnerie de papa. Donc, on parle d'un métier debout, dans le froid, les mains dans la glace, toute la journée. Voilà. Donc, certains peuvent considérer que c'est un métier qui est dur. Et j'ai vu mon papa qui était fou de bonheur de faire ce boulot, quoi. Mon papa, il a kiffé son travail, et il m'a fait comprendre que dans n'importe quel métier, y compris les plus durs, il pouvait y avoir du bonheur, de l'équilibre et du plaisir. Voilà. Voilà. Et moi, c'est une des leçons que j'ai retenues de ça. Et je pense qu'il y a, je pense que dans n'importe quel métier, à condition que ce métier, que la mission, que le cadre, les collègues, tout ça, correspondent à vos aspirations, eh bien, il y a moyen. Je ne dis pas que c'est facile et je ne dis pas que c'est automatique. Il y a moyen de trouver une forme d'épanouissement dans le travail qui, par ailleurs, peut vous rendre assez épanoui et heureux en tant, non pas que salarié ou entrepreneur, mais en tant qu'individu, voilà, et après un truc qui profite à votre vie de tous les jours, amicale, familiale, etc. Voilà. Et donc j'ai envie de lancer une émission peut-être sur ce sujet, sur une émission qui serait une émission d'exploration du bonheur au travail, en allant voir des gens qui justement ont trouvé cet équilibre. Voilà la proposition, je m'arrête, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nul? Est-ce que vous avez envie de regarder ou pas? Let's go. World of Crochet. Je suis une fille chariste. Alors, chariste, on va rappeler ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Ici, on est en mode étoile. Chariste. Chariste. Fiche métier. Bah, attends, là, il y a 600 000 fiches métiers. Une bonne définition de chariste. Chariste, def. Une petite fiche Wikipédia peut-être sur chariste. Voilà, let's go. Voilà. Hop, chariste. Le chariste est le ou la est une personne conduisant un engin motorisé servant au déplacement de marchandises au sein d'une exploitation. Par exemple, un chariot élévateur, c'est une partie des missions stockage, déstockage, etc. Donc, World of Crochet est une fille chariste. Que du bonheur, car je me suis écouté. Voilà, ça, là, je trouve ça intéressant. Hop, je vous lis un petit peu. Superbe idée au nombre d'heures dans notre vie qu'on passe à taffer, bah exactement. Voilà, bah oui, c'est ça aussi. Bon, on est obligé. Hein. Peut-être que dans le futur, on va arriver dans une société où le partage des richesses ou le partage des progrès technologiques vont faire qu'on aura moins besoin de travailler. Hein. Ça, c'est un autre débat que je trouve par ailleurs passionnant. En l'état actuel des choses, on passe quand même une partie importante de notre vie au travail, donc si ça pouvait bien se passer, ce serait cool, quoi. Ok, donc Jassy trouve que c'est une bonne idée. Sous quelle forme un podcast? Non, ce serait une émission sur Twitch. Ce serait une émission sur Twitch. Ce serait une émission sur Twitch. En direct, donc, avec des invités, avec des chroniqueurs, avec des chroniques, avec même des petits reportages. Ouais, donc je vous parle... Alors, pour le coup, je vous parle d'un truc assez ambitieux. Pas juste quelqu'un à côté de moi là qui vient témoigner pendant une heure et demie ou deux heures de son bonheur au travail. Un truc assez ambitieux. Invité, chroniqueur, chronique, reportage. Voilà. Ah ben je suis d'accord. Sacha, je me parle d'Orelsan qui dans certains de ses textes, on parle. Hein, quand il dit de bien écouter les conseillers d'orientation et de faire l'opposé de ce qu'ils diront. Tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Moi, je trouve les textes d'Orelsan sur la question, je les trouve très inspirants. Laurie Marin, merci pour les beats. La condamine, bonne idée d'informer les jeunes que le travail, ce n'est pas que gagner beaucoup d'argent, bien sûr, mais aussi de s'épanouir et y trouver un vrai plaisir. Et moi, j'ajouterais, quand l'épanouissement est là et que le plaisir est là, la réussite après, même si c'est pas du tout ce que tu cherches au début, elle va arriver. Ça aussi, c'est ma conviction. Bien sûr, Shuba 8 me dit, on n'a pas tous la chance du luxe, du plaisir au travail. Parfois, tu es obligé de prendre ce que tu peux, c'est pas ce que tu veux, quoi. Voilà. Claire 1710, deuxième mois d'abonnement. Olix 7 est un petit peu sur la même veine. Viens travailler en usine à Peugeot, on va voir si c'est fun. Encore une fois, je ne suis pas sûr que travailler en usine à Peugeot, comme tu le dis, je pense que tu parles de PSA, ou dans la poissonnerie de mon papa que j'évoquais, soit l'un des métiers soit plus facile que l'autre. Ça dépend en fait de tes qualités, de ton caractère. Je ne sais pas si Olix, si tu travailles en usine à Peugeot. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tu parles de quelque chose qui vient de ton expérience. Peut-être que tu juges sans l'avoir fait. Si tu travailles toi en usine à Peugeot, que ça ne te rend pas heureux, pardon, mais ça veut dire que tu n'es clairement pas au bon endroit. Mais je pense qu'il y a des gens qui travaillent en usine et qui, quelque part, ils trouvent une forme d'accomplissement. Ne serait-ce que parce que, par exemple, le travail, ce n'est pas du tout leur vie. Et je dis n'importe quoi, ils ont décrété que c'est purement alimentaire, purement pour payer un loyer ou la vie familiale et que l'essentiel chez eux est ailleurs dans leur vie familiale, amicale, leur passion. Ça peut être aussi une forme d'équilibre. Hein. Moi, je connais des gens qui sont très, très, très heureux qui en ont rien à carrer de leur travail. Hein. Des gens très heureux qui n'ont rien à carrer de leur travail. C'est purement alimentaire. Voilà, ils font ce qu'ils ont à faire et l'essentiel de leur vie est ailleurs. L'équilibre, ça n'est pas forcément que dans le travail. Hein. Ça peut être cool pour partager et donner de la visibilité à des métiers peu connus, me dit Felvico. Je vous lis. Écrivain cite Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. L'idée, c'est de faire découvrir des métiers. Du coup, pas vraiment, dit Clem. C'est plutôt de faire de rencontrer des gens qui, dans leur métier, kiffent ce qu'ils font. Des gens qui vont, par exemple, des gens qui vont changer de voie. Un des aspects de cette émission, ça va être de se pencher sur les reconversions. Des gens qui, justement, à un moment, ont fait le constat d'une impasse. Je ne suis pas heureux, je n'ai pas de plaisir dans mon travail, ou dans cette équipe-là, ou dans cette entreprise-là, et je change d'entreprise, de voie. Voilà, ça demande de se remettre en cause, ça demande du courage, parfois un peu d'inconscience. Voilà, c'est parfois compliqué, hein, de se remettre en question et de chercher une nouvelle voie. Parfois, ça oblige à faire des formations, reprendre des études. Et on va aller à la rencontre, par exemple, de ces gens qui ont fait des reconversions pour aller chercher l'équilibre, le bonheur, c'est un mot un petit peu fort, au travail, quoi. Ce sera un des aspects de l'émission. Ça. Je trouve que le phénomène des reconversions est assez intéressant. Les collègues, c'est important, hein. Sofles dit complètement d'accord avec toi, les collègues font au moins 40% de bonheur au travail. Moi, je suis dans un milieu que j'adore. Ça m'est arrivé de me trouver dans des situations, dans ce métier que je me suis choisi, qui n'est effectivement pas l'usine, je me suis retrouvé dans une situation où il n'y avait pas de bonheur. Parce que les gens qui travaillaient autour de moi, ça ne le faisait pas, quoi. Dans ces cas-là, il faut bouger, quoi. Hein? Les gens toxiques, vous les avez dans tous les milieux. Hein? Dans une boulangerie, comme dans une rédaction de journaliste, comme n'importe où. Voilà. Donc ces gens-là, il faut ou s'en débarrasser si vous êtes en... Pardon, hein, je parle crûment, hein. Les gens toxiques dans le boulot, ou vous en débarrasser si vous êtes en capacité de vous en débarrasser, ou vous allez voir ailleurs, quoi. Parce que vous pouvez pas vous laisser polluer votre quotidien, quoi. Il y en a partout, hein. Super idée, pas pour moi, ça me travaille, j'ai pas le titre encore. Je regarderai avec plaisir, me dit OTR Stream, ça peut être intéressant, me dit Hazarn. J'adore le concept, c'est du jamais vu, je crois, me dit Skir. Je ne crois pas que c'est déjà fait, que c'est déjà été fait. En télévision, je n'ai pas de souvenir. Sur Twitch, je pense que j'en suis sûr. Une émission feel good, ça fait du bien. Donc oui, me dit The Slum, ça pourrait être intéressant, me dit Nico Manga. Très intéressant, me dit Tronçonneuse. C'est un grand débat, le travail, donc ça touche tout le monde, me dit Nono l'Escargot. C'est un bon sujet, ça impacte beaucoup de monde, pourquoi pas, me dit Taya. Équilibre, je sais pas, mais c'est sympa de voir les visions des gens vis-à-vis de leur travail et ce qu'ils en retirent, me dit Rachel. J'adhère totalement, me dit Alester. Amène ton Samuel au travail, me dit Kirika Missile. J'aimerais beaucoup être invité à débattre, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, me dit Ma Costlol. Super concept, me dit Pierre P21. Tu vois, Bostanos, j'ai un exemple vécu. J'ai commencé ma carrière de cuistot en brasserie 60 heures semaine. Pourtant, le meilleur taf que j'ai jamais eu grâce à l'ambiance, au patron et aux collègues. Très intéressant, Sam, je valide. Je ne suis pas la cible, mais pourquoi pas si ça te fait envie, me dit Nemel Sama. Intéressant, mais risque d'être redondant, je crois. Et il faut que tu aies le temps de t'occuper de toi, mais tout ça. Redondant avec quoi, Sarah? Ah, tu veux dire d'une émission à l'autre? Bah non, parce qu'à chaque fois, on aura des nouveaux métiers, des nouvelles rencontres, des nouveaux trucs. Tu vois? Ça fait quand même beaucoup de variables, tout ça, Samuel, l'équilibre au travail, pas cher. Attendez, personne n'a dit que c'était simple, hein. Je parle pas d'une émission télé, hein, je parle d'une émission sur Twitch. Hein. Ah non, mais c'est super compliqué, hein, de trouver l'équilibre et le bonheur au travail. Hein. Attends, c'est... Bien sûr qu'il y a plein de variables. Et en plus, des variables qui bougent. Parce que les collègues autour de toi, ils peuvent bouger. La direction que tu as, elle peut bouger. Ton entreprise, elle peut changer un petit peu d'orientation et d'ambiance et de tout ça. Donc parfois, l'équilibre, il est là, le bonheur, il est là. Et puis 2 mois plus tard, il n'y a plus. Parce qu'on parle en plus d'un univers mouvant. Donc est-ce que cette émission peut donner aussi des armes aux gens, pour les outils, pour justement leur permettre de réagir par rapport à une situation qui se dégraderait? Moi, je pense que c'est un sujet essentiel, quoi. Alors, il y aura un aspect découverte de métier aussi, c'est vrai. Garde Six en parle, vous êtes plusieurs à en parler. En vrai, ce serait aussi un des aspects de l'émission, effectivement. Putain, j'ai plein de commentaires. Merci, Sœur Mac Cartoon, pour cet abonnement. Moi, je suis gérante d'un bar, me dit Julie. monde d'hommes à 90% et pourtant j'adore et je suis respecté. Ce sera en live, ce sera en live. Ouais. Mm. Très bonne blague d'écrivain. Une question pour mademoiselle Cariste qui était avec nous. Est-ce que ça s'est arrangé avec Booba? Cariste, Booba. Quel jour? J'ai pas choisi de jour encore. Ce serait une émission, ça pourrait être une émission bimensuelle, deux par mois, vous voyez, ce qui me demanderait un peu de travail. Alors certains ne sont pas hypés du tout. Tragique Pepperoni, joli pseudo. Le travail prend déjà beaucoup trop de place dans nos vies. Personnellement, pas intéressé d'en entendre parler encore plus. Alors ça dépend du regard que tu portes sur le travail, source d'épanouissement ou pas du tout, quoi. Mamiche, juste au-dessus de toi, n'est pas d'accord, c'est hyper intéressant et peut aider beaucoup de gens à se trouver. Il faudrait faire une liste de choses qu'on aime. Il faut s'écouter. Waldorf Crochet, trop bien, très important, on ne connaît pas assez de métiers. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai pas forcément quelque chose que je mets en avant, mais je vois que l'aspect découverte d'autres métiers, deux métiers, vous intéresse plutôt, quoi. Ah, vous êtes même plein à le dire. Escapix, faire découvrir des métiers aux gens, ce serait bien. Ok, c'est drôle ça. Intéressant. Oh, j'ai la gorge qui pique. C'est, je sais pas si c'est la pollution en ce moment. Sur ma cartoune, merci pour l'abonnement offert à la commu. Défécateur officiel, j'avais pas vu que tu étais avec nous. Merci pour le 25e mois d'abonnement. Claire, merci pour le 2e mois d'abonnement. Ça dépend des chroniqueurs aussi, dit Colonel Rhubarbe. Tiens, je lance un sondage. Je lance un sondage. Hop. Une émission sur le bonheur au travail. Alors je mets top, je mets ok, je mets non, en fonction de l'envie que vous avez de regarder ou pas, hein, ça veut dire. Une émission sur le bonheur au travail, ouais, le bonheur, l'équilibre, ouais, si, ouais. Bon, je résume, quoi. Top, genre, ouais, je veux regarder, ça m'intéresse, ouais, ok, je jetterai un coup d'œil, non, ça m'intéresse pas, je ne sais pas. 2 minutes, c'est parti pour le sondage. Qui va me permettre d'aller au-delà de ce que je lis dans le chat. Voir les résultats. Je vous lis en même temps que le sondage commence. Rimek dit, est-ce que ce serait pas... C'est intéressant ta remarque. Un sujet redondant au fur et à mesure, j'ai la sensation d'un sujet éphémère qui tournerait vite en... Non, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. En fait, je pense que chaque réponse à cette question, est-ce qu'on peut trouver l'équilibre, le bonheur au travail, elle est individuelle. Elle dépend de tellement de facteurs. Et les critères, les données de l'équation qui vont rendre quelqu'un heureux ou dans l'équilibre au travail ne correspondent absolument pas aux critères qui vont permettre de le faire pour une autre personne, quoi. Et pour le coup, à chaque émission, on aura des témoignages de gens qui vont trouver l'équilibre dans des secteurs extrêmement différents et qui l'ont trouvé de manière très différente. Ne serait-ce que dans l'investissement, il y a des gens qui peuvent être très heureux au travail avec un investissement assez faible et des gens qui vont avoir besoin d'un investissement énorme pour trouver cet équilibre, quoi. Et bien sûr que, il y aura comme ce sera un live sur Twitch, le chat sera mis à contribution, quoi. C'est vachement intéressant. Bah regarde, il fume, moi ça me parle ce que tu me dis. J'ai 30 ans, j'ai fait des études d'ingénieur qui ne m'ont jamais intéressé. Bon, GG à toi déjà si t'es allé au bout de tes études d'ingénieur, alors que manifestement il n'y a pas beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, mais vraiment félicitations, en vrai quoi. Donc c'est déjà un défi. Aujourd'hui je me bats pour faire quelque chose qui me plaît, mais c'est tellement décourageant, j'ai l'impression de n'avoir aucune porte ouverte, le sentiment que c'est trop tard. 30 ans, mais non. 30 ans. Et je pense qu'aujourd'hui à 40 ans, à 50 ans, tu peux te réinventer professionnellement, quoi. Il faut pas, là je ne parle qu'à toi, il faut pas lâcher l'affaire, quoi. Déjà t'es courageux de vouloir sortir de la voie dans laquelle tu es. Ça peut être compliqué, mais il faut que tu ailles au bout de ça, quoi. Alors on a le résultat du sondage qui dit une émission sur le bonheur au travail, est-ce que ça vous hype? Ok, je vais regarder, pourquoi pas. 42%, top, oui, 33%. Donc les avis plutôt positifs sont là. Je fais une capture d'écran d'un mec de ma génération, c'est-à-dire que je prends le sondage en photo, ça va plus vite. Les avis positifs sont à 75%. Non, ça m'intéresse pas du tout. 17%, ok. Et je ne sais pas, 8%, ok. Bon, bah, le résultat est au-delà de ce que j'espérais, quoi. Donc ça me fait plaisir. Merci de nous régaler pendant le cours du mat du matin, frérot. Ça me fait plaisir parce que moi aussi, pendant les cours de maths, je faisais tout sauf des maths. Résultat, mon niveau de maths était catastrophique, mais j'ai un moment, j'ai lâché l'affaire, je comprenais plus rien. Donc je vais pas te jeter la pierre, même si essaye d'être meilleur en maths que je ne suis, quoi. Et c'est pas en écoutant mon stream que ça va le faire, quoi. Tiens, regarde, Pégalive, j'ai quitté mon ancien boulot, manifestement que tu aimais, pour l'argent, et je m'en mords les doigts aujourd'hui. C'est une idée géniale, me dit Célinity, c'est parfois tellement difficile de trouver sa voie, encore moins d'être heureux au travail. Une fois sorti de l'école, beaucoup sont perdus, au vu du nombre de reconversions aujourd'hui, ça fait complètement sens. J'adore ce projet. Ah, Olix, ah pardon, alors Olix, alors j'ai beaucoup de messages, je ne lis pas tout. Olix qui nous parlait de la condition de l'équilibre dans une usine d'automobile me dit bah, je travaille justement dans une automobile, hein, je suis à Sochaux, donc PSA. Donc, tu sais de quoi tu parles, et manifestement, tu n'es pas heureux dans ce que tu fais. Et alors, je ne suis pas conseiller en orientation professionnelle, mais je suis persuadé que en fonction de tes qualités, de tes capacités, de tes qualités, il y a un endroit où tu peux être excellent et où tu peux t'épanouir et où tu peux, par le plaisir et l'investissement, gagner correctement ta vie, peut-être mieux que ce que tu veux aujourd'hui. C'est facile à dire comme ça, mais c'est une vraie conviction. Après, ça demande beaucoup de travail, de remise en cause, en question, parfois de prise de risque. Et quand on a des charges, quand on a un loyer, quand on a un emprunt, quand on a une famille à faire vivre, j'imagine à quel point ça peut être compliqué. C'est plus facile de faire ce travail de réflexion avant, quand on est enfant, puis quand on est ado, quand on est jeune adulte, quoi. Bien sûr. Alors Citus me parle de son papa qui bossait en usine chez PSA et tous les jours il était content d'aller au travail. Voilà. Bon, j'ai 600 messages de retard, mais mon boulot est purement alimentaire et ça me va très bien, me dit Narsule. Et encore une fois, vous voyez, c'est beaucoup plus large que le bonheur au travail. Je pense compter. Évidemment qu'on peut être totalement heureux et équilibré avec un boulot qui n'est pas dans lequel on ne s'est pas investi, quoi. En tout cas, ça provoque beaucoup de réactions, beaucoup plus que je n'imaginais. Donc, j'ai vraiment littéralement 600 messages de retard. J'en lis encore quelques-uns, puis je lance cette revue de presse qui a pris un petit peu de retard. Je suis désolé, c'est de ma faute. Trois reconversions à mon actif, invite-moi, me dit Macoslol. Merci Faker pour le gentil message. Quentin, je ne regarderai pas l'émission, mais je ne doute pas qu'elle plaira à certains. Moi, je trouve ça cool si on parle de changement de voix, me dit French Wanderers, par exemple. D'autant que alors ça rentre en résonance avec pas mal d'inspiration de la nouvelle génération, parce que ce que disent les entreprises aujourd'hui, c'est qu'ils sont face à des jeunes salariés, des gens qui sortent de leurs études supérieures, et un peu désemparés, parce que justement, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont beaucoup plus exigeants que leurs aînés sur les conditions de travail, sur le sens de leur job sur les conditions dans lesquelles ça se fait. Donc, pour le coup, c'est vraiment une question d'actualité. Parlez-en au DRH, justement, ils se rendent bien compte qu'il y avait plus d'exigences qu'il n'y a eu, quoi. Ah, c'est mignon. Motion dit, est-ce que tu veux interviewer ma compagne qui était prof de français en REP+, qui s'est reconvertie en podcasteuse ciné? Je retrouve enfin ma femme accomplie professionnellement. Voilà. Bibi Yoshi, j'ai 34 ans, je suis dans l'informatique, j'en ai rien à carrer de mon travail. L'important est d'être dans un environnement agréable et bon collègue, et surtout de ma vie de famille. Et ça, je pense que c'est un discours qu'on doit entendre aussi dans cette émission. Attends, mais je suis sur la toxicité. Je suis en train de lire des messages sur la toxicité des gens dans le cadre du travail. Donc j'ai à peu près une demi-heure de retard sur vos messages. C'est juste impossible. Oh, j'ai honte. Je vais tout en bas du chat, c'est-à-dire que j'ai oublié plein de messages, désolé, mais c'est impossible de vous lire tous. Salut, arnaque-moi si tu... Je vois qu'arnaque-moi si tu peux être avec nous ce matin. Tropical Dark Fog me parle d'une youtubeuse qui s'appelle Maître Cocotte qui est passée de notaire à éleveuse de poules. Trop drôle. Arnaque-moi si tu peux, justement, que j'évoquais. Faire un métier qui nous plaît, nous épanouit, c'est le rêve de tous, je pense. Alors, tout le monde n'y arrive pas. Je pense qu'on est... On a fait un sondage d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous faites un métier qui vous épanouit? Est-ce que vous faites le métier de vos rêves? J'avais été surpris par les résultats. Je m'attendais à très très peu de réponses positives. Il y en avait beaucoup. Je parle d'un sondage auprès de votre, de vous en fait. Citron Rhum Sucre. Bonjour Sam, j'aime beaucoup cette idée d'émission. J'ai fait un master d'espagnol pour finalement devenir coach sportif à domicile avec une spécialisation en périnatalité, donc un milieu très féminin. J'accompagne aussi des autistes. Ma satisfaction au travail est hyper top. Bon, bah écoutez les amis, merci en tout cas pour vos retours que je trouve très intéressants. Les avis enthousiastes et aussi les avis critiques et les avis pas enthousiastes, ça m'intéresse vraiment. Voilà. Mais je trouve ça vraiment intéressant, merci à vous. Ok. Cool. TDS Kira, bonjour, je suis bouché, je n'aime plus ce métier. Je suis en conversion, je suis la voix de mon enfance. Moi, je pense qu'on a toute une petite musique en nous qui nous parle de trucs. Quand j'étais en CAP boucher, je voulais être dans le monde militaire. Alors maintenant, je fais mes classes gendarme. C'est parti, début 2024, c'est cool. Cool. Bon, les amis, pardon pour cette longue introduction. Normalement, l'introduction sur cette chaîne dure une demi-heure. On prend de ses nouvelles, comment ça va, blablabla. On a pris du retard parce qu'en fait, on a eu un débat sur les réseaux sociaux qui était intéressant. Et puis, à l'instant, sur ce projet d'émission. Bon. Je dois décider dans les prochains jours si je lance ce projet d'émission, sachant que j'ai déjà pas mal de fer au feu pour les prochaines semaines, les prochains mois. Mais ce que j'ai lu m'a plutôt donné envie de le faire. Donc si vous voyez cette émission arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois, eh bien ce sera en partie ou à cause de vous. Payette, merci à l'instant pour ce Prime. C'est parti pour la revue de presse. Alors, pour me rattraper, je vais faire un petit sommaire très rapide. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas rester 2 heures avec nous, hein, là, eh bien, vous aurez l'essentiel de l'actu en 5 minutes. OK ? Voilà, 5 minutes, vous avez l'essentiel de l'actu. Et après, on lit tout ça dans le détail. OK. Des trucs assez intéressants ce matin. Et est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que j'ai votre go ? Est-ce que j'ai votre... Allez-y ! Est-ce qu'on y va? C'est parti. Merci Founti. Merci pour cette deuxième année. Allez, c'est parti, on part. On vous. Quelqu'un me disait tout à l'heure, est-ce que tu vas parler de la CMP? La commission mixte paritaire. Oui. De quoi s'agit-il? Eh bien, de cette dernière chance, on va dire, a priori pour ce projet de loi sur l'immigration dont on parle depuis très longtemps. Voilà, c'est censé être une des réformes les plus importantes de ce deuxième quinquennat du président Macron, sauf que ce truc a du plomb dans l'aile depuis un petit moment. Voilà. Y a donc une histoire de commission mixte paritaire. L'épreuve finale, nous dit le Parisien ce matin, qui consacre 2 pages à cette histoire. Elisabeth Borne a reçu hier soir donc les représentants de la droite, puisque voilà, c'est les voix de la droite qui sont nécessaires à la majorité actuelle pour faire passer ce texte, puisqu'a priori le président Macron dit qu'il ne veut pas utiliser du 49-3 sur ce texte. Donc un papier là-dessus et un papier sur la CMP. Qu'est-ce que c'est la CMP? Et le Parisien qui nous explique que tout est possible, y compris un échec. Pour ce texte, un échec politique qui serait assez lourd pour l'exécutif et le président Macron. On va se pencher là-dessus. Un sondage, une enquête, plus qu'un sondage, parce que c'est une enquête qui est sur un panel qui est beaucoup plus important que pour un sondage classique, mis en avant par Le Monde, sur les prochaines européennes, puisqu'on a des élections qui arrivent. Voilà, et cette enquête... à 6 mois du scrutin, puisqu'on vote en juin 2024, merci beaucoup Dim TV pour ce prime à l'instant, eh bien, nous dit que le RN ne cesse de gagner du terrain, mais les chiffres sont très importants, puisque si on prend les 3 listes de l'extrême droite, on est à 28% pour le RN, on est à 6,5% pour la Reconquête d'Éric Zemmour, et plus 2,5% pour Debout la France, on arrive à 37% des intentions de vote aujourd'hui pour ce que j'appelle l'extrême droite et ce que certains appellent autrement. Mais moi, c'est mon choix ici, que je vous ai déjà expliqué, que j'appelle l'extrême droite. Donc on est à un total de 37% des intentions de vote. La deuxième place pour Renaissance, 20%, donc effritement qui se poursuit de la majorité, du bloc central. La gauche reste stable, 32,5%, ça n'est pas rien, hein, mais reste très divisé aussi. Donc on va se pencher là-dessus avec Le Monde. Voilà, le RN qui gagne du terrain. Bon, vous ne serez pas très surpris, je pense, par ces chiffres, puisque c'est un constat, hein, que les intentions de vote pour l'extrême droite en France ne cessent de grimper depuis des décennies d'élection en élection. Hein, les sondages pour la prochaine présidentielle, même si 4 ans avant, c'est beaucoup trop tôt, eh bien, le disent. En tout cas, aux dernières présidentielles, l'extrême droite, le FN, puis le RN n'a cessé de grimper. Voilà. C'est ce qu'on risque de constater aussi aux prochaines européennes, qui sont bien plus proches que la présidentielle. N'oublions pas le Proche-Orient ici, le conflit se poursuit, les morts se poursuivent, et on a un article extrêmement intéressant, ou plutôt un regard, une prise de position d'un quelqu'un qui n'est pas un journaliste, hein, qui est Dominique Moisy, qui est géopolitologue et qui écrit souvent dans Le Monde, et qui nous fait un point où on en est actuellement de la guerre au Proche-Orient et des représailles militaires de l'armée israélienne contre le Hamas et du coup contre la population civile de la bande de Gaza, qui en prend plein la gueule à un moment, il faut dire les termes. Et Moïse fait un bilan. Voilà, pour moi, je pense qu'il faut continuer à en parler et pas oublier ce qui se passe, et dit comment on peut en sortir. Voilà, parce que bon, vous assénez que des mauvaises nouvelles, c'est une chose, mais à un moment, se demander comment on peut sortir d'une situation qui semble pourtant totalement inextricable, dont on ne peut pas sortir. Est-ce qu'il y a une solution? Moïse dit, il y a une solution. Elle est extrêmement complexe. Une conférence internationale, je vous en parlerai. J'ai trouvé le papier très intéressant. Quand je mets plein de jaune comme ça, c'est que je trouve la réflexion est plutôt sympa. Une pensée pour tous ceux qui, en France, et ils sont de plus en plus nombreux, ont besoin d'aller au Resto du Cœur juste pour pouvoir manger. C'est la Une de Libération qui est allée à la rencontre de bénévoles, plusieurs bénévoles, dans l'Ain, dans la Drôme, bénévoles des Restos du Cœur qui tentent de s'adapter à la hausse massive du nombre de bénéficiaires du Resto du Cœur. On va se pencher sur les chiffres de cette hausse massive. Pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vont au Resto du Cœur? Les chiffres sont juste hallucinants. Et en quoi? Alors ça, c'est l'angle de Libé. Je vais me chercher un Coca Light pour hydrater ma gorge. Ça pique, je pense que c'est un peu de pollution. Le Libération nous explique, nous affirme que le secteur agroalimentaire et le secteur de la grande distribution ont une responsabilité dans le fait que les prix de l'alimentation ont beaucoup monté en France et waouh, merci, j'arrive Rhapsody, merci, ils n'ont pas diminué très rapidement. Donc, accusation extrêmement forte de l'IB contre le secteur agroalimentaire en France. Voilà. On se penchera là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. On ira faire quelques petites recherches aussi pour essayer d'étayer cette accusation de libération. Rhapsody in Blue. Merci pour les 10 abonnements offerts à la commune. L'alimentation toujours frappée par l'inflation. On va se pencher là-dessus. Je vous le disais, c'est dans l'IB. Bon, bah, c'est pas un nouveau sujet, mais j'adore parce que ce que j'aime ici, c'est que vous n'êtes pas tous de la même, de la même opinion. Alors, les taux me disent, ça fait juste 10 ans que LFI dit ça en disant, ha ha ha, rigolo, l'IB est tellement à la bourre alors que tout le monde le sait. Voilà. Et juste en dessous, à Chernard, ouais, enfin, c'est l'IB, normal que ce soit du n'importe quoi. Je vous aime, c'est pour ça que je vous aime. Vous n'êtes pas d'accord entre vous. Et on arrive à en parler de façon assez chill. Bon, je suis assez content de ça. Merci à vous. Alors, c'est pas une nouvelle question, mais le Figaro fait un point assez intéressant sur que disent les scientifiques de ce sujet. Est-ce que les écrans, c'est vraiment pas bon pour les enfants? Dans quelle proportion? Quel type d'écran? Selon quel contenu? Eh ben, le FIG nous fait une étude que je trouve intéressante, que je trouve intelligente. Un petit cadrage sur ce que disent les études scientifiques sur cette question, enfants en écran, que dit vraiment la science? On lira ça, j'ai appris 2-3 trucs, j'espère que vous aussi. Comment ne pas parler ce matin de ce nouveau sacre des handballeuses françaises à nouveau championnes du monde, 2003 championnes du monde, 2017 championnes du monde, 2023 championnes du monde, la Norvège qui est un peu leur ennemi juré, battu 31-28, donc GG à elle, comme dit MMG7F exactement, et des handballeuses qui ont maintenant les yeux tournés vers les Jeux Olympiques parce qu'elles sont très très contentes de ce titre mondial, mais elles disent aussi le Graal de tous les sportifs. Et de toutes les sportives, c'est bien sûr les JO. Non, c'était contre la Norvège, c'était pas contre la Suède. Sir McCartoon. Enfin, c'est ce que dit le Parisien. Après, peut-être que le Parisien se gourre pendant tout l'article, mais dans ce cas-là, si c'est le cas, on les appelle en direct et dit bonjour, le Parisien, je vous passe Sir McCartoon qui dit qu'en fait c'est la Suède et c'est pas la Norvège. Il n'y a aucun souci. Bravo à elle. Par contre, TF1 qui coupe la moitié du match, le passe sur TMC, bof, dit Diesel. La Suède, c'était en demi-finale. Ok, merci les uns pour l'info. Et puis on finira. Liste, but not last, par un sujet que je trouve très important, en tout cas qui a été beaucoup dans l'actualité la semaine dernière sur Twitter, chez nos amis de Twitter, qui est ce débat sur les sources. Est-ce que les YouTubeurs doivent ou pas sourcer leurs vidéos? Donc c'est la grande polémique de la semaine dernière sur Twitter autour de The Great Review d'Augustin, qui était mon invité hier soir dans Ça me plaît pour jouer à Outer Wilds, avec qui j'ai parlé de ce sujet pendant la première demi-heure de l'émission. Si ça vous intéresse, c'est en replay pour les abonnés sur Twitch ou sur YouTube gratuitement à partir de 13h aujourd'hui. Eh bien, j'ai trouvé un article que je trouve vraiment intéressant en préparant l'émission pour Augustin sur Combini, mais vraiment c'est l'inverse, last but not least. Oui, bien sûr, c'est l'inverse. Merci beaucoup. Défécateur officiel me dit bien sûr qu'il faut sourcer, je fais ça depuis le début de ma chaîne par exemple. Défécateur officiel qui fait un gros travail de lutte contre les fake news et sur le debunk sur YouTube et sur Twitch. Alors voilà, est-ce que les YouTubeurs doivent sourcer leurs vidéos? C'est le débat autour de The Great Review de la semaine dernière. Et là, on a un article que je trouve carré, travaillé, avec beaucoup d'exemples, et je trouve qui peut nous faire avancer dans la réflexion sur ce sujet. Voilà, je vous mettrai le lien. Franchement, c'est du beau boulot. C'est un article qui est signé, il est au début, qui est signé Pierre Bazin, voilà, publié le 15 décembre, il y a 3 jours. Donc c'est un article qui parle justement de cette polémique, de ce débat, de cette sauce, et qui va plus loin, qui se pose la question, qui dépasse un petit peu la polémique, qui dit d'ailleurs, moi, c'est pas ce qui m'intéresse, pas la polémique, c'est pas ce qui s'est passé sur Twitter, mais c'est la question de fond, et je trouve que le sujet est bien traité. Donc, il y a pas mal de choses, mais ça se lit assez vite. Vous allez voir, c'est vachement intéressant, j'ai trouvé cet article vraiment super. Ah. Bon, ça va, vous? Merci, Laurie Marin, pour les beats. Merci encore, Rhapsody in Blue, pour les abonnements offerts à la commu. Est-ce qu'il a sourcé l'article? Oui. Alors après, les journalistes, quand ils font bien leur métier, ils sourcent les informations qu'il y a dans leur article, pas à la fin, mais dans l'article, ils sourcent, ils disent, ben voilà, machin a dit ça, truc a dit ça, sur telle source d'image, on a ça. Hein. Normalement, c'est dans le texte de l'article, un journaliste qui fait bien son travail, il source toutes les informations, quoi. Alors, contrairement à un travail universitaire où les sources peuvent être souvent à la fin, quoi. Oui, c'est pas maintenant le débat, c'est tout à l'heure. Bonjour Samuel, question légèrement liée aux sources. Justement, quelles sont les obligations pour une revue de presse? Doit-on avoir la permission des journaux pour diffuser leurs articles? Non. Non. C'est le droit de la citation. La revue de presse, c'est un exercice que je n'ai pas inventé, hein, qui est vu comme Le Monde, que j'ai beaucoup pratiqué depuis 30 ans en télé ou en radio. La revue de presse est un exercice qui est autorisé dans le cadre de la citation. Hein. Comment ça marche? C'est-à-dire que tu n'as pas d'autorisation à demander aux journaux pour les citer, à condition que cette citation ne soit pas un pillage. Je prends toujours le même exemple. Si vous prenez un journal, si je prenais un journal, Le Parisien, Le Monde, voilà, et que je vous le lisais tous les matins ou tous les soirs, voilà, en vous disant « Waouh, c'est top !» Je vous lis Le Parisien, ou je vous lis Le Monde, c'est formidable, regardez, il y a ça, 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 ça. Ça s'appelle du pillage. Donc je crée un contenu, potentiellement de la richesse, avec un travail que je n'ai pas fait. Hein. Vous avez des dizaines, des dizaines, des dizaines de journalistes qui ont travaillé, ont produit un contenu qui a demandé du temps, de l'investissement matériel, etc. Et puis, je le prends et je le pompe allègrement et avec ça, je fais ma petite chaîne, quoi. Voilà. Ça, ça s'appelle du pillage. Là, ce qui est autorisé, c'est la citation. C'est de faire ce que je fais. C'est-à-dire, je lis tous les matins tous les journaux, Le Parisien, Libération, Le Figaro, Les Échos, L'Opinion, La Croix, L'Humanité, voilà, etc. J'espère que j'ai oublié personne. Enfin, plusieurs, quoi. Le Monde. Et puis, je vais choisir un article. Parfois, rien. Ce matin, il y a trois journaux où il n'y a rien qui m'a inspiré. Non pas que ces journaux n'étaient pas bons ce matin, mais rien qui m'a intéressé. Je vais pas vous parler de L'Opinion ce matin. Je vais pas vous parler de L'Humanité ce matin. Je vais pas vous parler de La Croix, je crois, ce matin. C'est les journaux que j'adore. Mais j'ai rien trouvé qui m'intéressait, parce que c'est très subjectif ce matin dans ces journaux par rapport à l'actu de ces derniers jours. Alors qu'il y a peut-être des trucs super. Bref, donc dans un journal, en gros, je vais choisir parfois zéro article, parfois un article, parfois deux articles, parfois trois, c'est très rare. Sur des dizaines et dizaines d'articles, je vais vous lire une partie de cet article, pas l'intégralité, et je vais vous dire, bah voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant parce que, voilà. Donc je cite, je prends, je picore, voilà, et, mais je le fais pour plein de journaux. Voilà. Et quand, et là on est dans le cadre de ce qu'on appelle la revue de presse, voilà, parce qu'en fait, ce ne sont que des petites parties des journaux, et j'ai plusieurs sources, voilà, et je ne pompe pas intégralement le contenu d'un journal. Ça, ce serait du plagiat pour le coup. Voilà, c'est la différence. Et ça, c'est totalement autorisé. Bon, en même temps, des revues de presse en radio, par exemple, ça existe depuis. Pomme de rien, c'était une bonne question. Ça existe depuis la nuit des temps. Je n'ai rien invité. C'est juste que je le fais sur Twitch. Quoi. Bon, bah, on va lire tout ça en commençant par le projet de loi sur l'immigration. Je vais juste aller me chercher un petit Coca-Zéro pour m'hydrater parce que j'ai la gorge qui pique. Bougez pas. Faites pas de bêtises pendant que je suis pas là. Bon, très bien, il y avait un vieux Coca-Zéro qui traînait d'hier soir, sans bulle, excellent. Comme ça, on peut enchaîner tout de suite. Prêt? On y va? Let's go. Quelle heure il est? Est-ce que je suis bien? Je suis bien. Alors, l'épreuve finale, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, c'est est-ce que le gouvernement va réussir à faire passer ou pas son projet de loi sur l'immigration ou pas? L'épreuve finale, Elisabeth Borne a reçu hier soir les dernières infos, les représentants de LR, LR c'est la droite, afin de trouver un accord. Emmanuel Macron suit la situation de très près. Du coup, il est très près. Là, hop, comme moi aussi, je vous mets très près. Voilà. C'est la fin d'un marathon législatif qui pourrait être un tournant pour le second quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est un texte, un marqueur de ce deuxième quinquennat, et dont les conséquences peuvent se révéler lourdes pour le gouvernement, tout comme l'unité de la majorité. Après des mois d'hésitation et de tractation, la première ministre, Elisabeth Borne, tente d'arracher un accord avec la droite qui a pourtant pas beaucoup de députés à l'Assemblée, mais qui est dans une situation un petit peu essentielle pour assurer un avenir au projet de loi sur l'immigration, dont on parle depuis au moins un an. Sa mission est d'autant plus compliquée qu'elle doit pactiser avec l'opposition sans se mettre à dos sa propre majorité, puisque au sein de la majorité, vous avez une aile droite et une aile gauche. Une aile droite qui est plutôt OK pour se mettre d'accord avec la droite, et une aile gauche qui dit non. Je suis assez pessimiste sur l'issue de l'objectif du gouvernement. Elisabeth Borne a mis les bouchées doubles hier soir en recevant à 19h les figures du parti, donc les Républicains, Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau. 2h30, c'est très précis, de palabres, sans qu'aucun accord ne soit annoncé à l'issue de cette réunion. C'est ce qu'on dit du côté de la droite. La chef du gouvernement, donc on parle d'Elisabeth Borne, sait qu'elle joue gros, peut-être même son poste, parce qu'en fait, bon, si le texte ne passe pas, c'est un gros échec politique pour le gouvernement. Est-ce que ça conduira à un remaniement? C'est la question. Ce lundi, c'est aujourd'hui à 17h. Ok, Rosa, je t'emmerde. Pardon, j'aime bien dire des gros mots à la télé, j'ai pas le droit. Rosa, c'est très violent ce que je dis, mais je t'emmerde. C'est vraiment l'exemple que tu veux donner à boire des boissons sucrées dès le matin, il faudrait que tu réfléchisses aux conséquences des actes. Je t'emmerde, c'est un coca zéro. Si je meurs de boire trop de coca zéro parce que j'ai besoin de m'hydrater la gorge, parce qu'il y a de la pollution en ce moment, ou je ne sais pas, je t'emmerde. Voilà, je fais ce que je veux, je ne suis pas diététicien, je ne suis pas là pour donner des questions des conseils sur la santé. Tu me fais chier, je suis en train de parler d'immigration. Tu me casses les couilles. Donc reviens pour parler du projet de loi sur l'immigration, mais je ne suis pas conseiller en diététique. Donc si tu veux des conseils en diététique, tu viens pas sur cette chaîne. Moi, je passe ma journée à manger des crocodiles Haribo, à boire du café et à boire du coca. Voilà. Donc arrête de me faire chier. Bon, ce lundi à 17h, lorsque 7 députés et 7 sénateurs se retrouvent à l'Assemblée en commission mixte paritaire, la fameuse CMP, le gouvernement n'aura plus la main sur son projet de loi, ça c'est très important, plus que ma consommation de coca zéro, il ne participera pas à cette ultime séance de discussion, il était donc impératif de tout négocier en amont. C'est intéressant parce que ce qui va se passer là, le moment où le texte va partir en CMP, en fait, le gouvernement n'aura plus la main dessus. Non, j'ai pas craqué, c'est juste que... À un moment, quand t'es sur un sujet sérieux, que le mec te parle de ta consommation de Coca-Cola, tu te dis « arrête quoi ». Trouver un accord en CMP ne sera pas simple, ça c'est intéressant, tout comme trouver ensuite une majorité à l'Assemblée et au Sénat pour faire adopter ce texte lors d'un vote solennel ce mardi. Alors déjà, un, trouver un accord en CMP, commission mixte paritaire, avec un certain nombre d'élus de l'Assemblée et du Sénat. C'est pour ça qu'on dit « mixte paritaire ». Ça va pas être simple, et en plus, c'est pas tout. Le texte sur lequel les sénateurs et l'Assemblée et les députés vont se mettre d'accord, après il repart à l'Assemblée, ok, et il va falloir qu'il y ait un vote. Autant dire que c'est très très mal parti cette histoire. Si ça va au bout, le gouvernement rentrera dans l'hémicycle sans connaître l'issue du vote. Voilà. Il y a Chichine qui regarde l'émission avec sa mamie qui est choquée. Je suis désolé, mais c'est un peu pour faire rire les gens à la télé, j'ai pas le droit de dire ça, ici j'ai une totale liberté de parole, donc c'est un peu pour faire rire les gens aussi, et c'est un peu pour faire rire un petit peu les gens, quoi. Voilà. J'espère que ça vous a fait rire. Mais c'est vrai qu'à un moment sur une chaîne qui parle essentiellement d'actu et un peu de jeux vidéo, venir sur des conseils diététiques, c'est juste que la personne, elle est à côté de la plaque, quoi. Ça m'intéresse pas. C'est une situation dingue, ça m'intéresse. Voilà. Et c'est dangereux, dit un ministre. C'est de la folie de prendre le risque d'un deuxième vote contre. Rappelez-vous, il y a déjà eu un vote d'une motion de rejet contre le texte. Voilà. Donc ce serait un deuxième vote contre ce texte. Voilà. C'est de la folie. Ça déclencherait une crise politique majeure. Lors du dîner à l'Élysée avec les cadres de la majorité mardi dernier, le président de la République a fixé le cadre. Pas de 49-3. Bon, pas de 49-3. Et pas de dissolution. Bon, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc pour l'instant... le président dit qu'il ne veut pas passer en force avec un 49-3 sur ce texte. Lors du dîner à l'Élysée avec les cadres de la majorité mardi, le président de la République a fixé le cadre, ok, donc il faudra aller chercher les voix au sein de la majorité, on se prépare à des pertes. La stratégie d'aller chercher des voix à gauche, à droite, surtout à droite, pour faire passer des textes depuis le début de ce quinquennat, puisque le président Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée. Ça n'a jamais marché. Oui, oui, on y croit, dit Knight Greyhoff. T'as complètement raison. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, depuis le début, le président Macron, qui n'a pas réussi à obtenir de majorité absolue à l'Assemblée, espère que sur chaque texte, il va trouver des majorités dites de circonstances, à droite, à gauche, enfin plus souvent à droite, pour faire voter ces textes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il n'a jamais réussi à trouver ses voix. Donc ça passe à coup de 49-3. Pourquoi pas de 49-3? Alors il y a un débat là-dessus, je ne rentre pas dans le détail. Certains constitutionnalistes disent c'est impossible. Le gouvernement a utilisé toutes ses cartouches en matière de 49-3 pour cette session parlementaire, puisque depuis quelques années, l'utilisation du 49-3 est encadrée. Voilà. Tous les constitutionnalistes ne sont pas d'accord, voilà, mais certains disent qu'il a grillé ses cartouches. Donc il ne peut pas utiliser le 49-3. Et puis, ça peut être aussi pour d'autres raisons, en estimant que sur un texte aussi important que l'immigration, eh bien, le président souhaite cette fois ne pas passer en force. Bon, ça c'est pas... C'est juste une proposition d'analyse, je ne suis pas dans la tête du président Macron. Donc la seule solution, c'est de renoncer au texte, si je comprends bien, dit Valentin. Ben, si le président ne veut pas utiliser 49-3, si, il peut changer d'avis, hein, c'est la politique, hein, et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée pour faire passer ce texte, qui a été voté par le Sénat dans une version dure, qui est partie vers la droite, ben, l'exécutif va abandonner ce texte, effectivement, comme tu viens de le dire, et là, c'est un échec politique pour le gouvernement. Le huis clos, tout est possible. Le Parisien va un peu plus loin sur cette affaire et se penche sur cette histoire de CMP, de commission mixte paritaire. Ce lundi à 17h à l'Assemblée, députés et sénateurs se réunissent pour négocier une nouvelle mouture du projet de loi immigration. L'issue reste incertaine. Bon, attention, je vais boire une gorgée de Coca Zéro pour hydrater parce que ça pique, sinon je ne peux plus parler. Donc retenez-vous de critiquer ma consommation de Coca Zéro, sinon vous savez ce qui se passe. Je vous surveille, hein. Attention, hein. Alors, lisons. Pourquoi pas de l'eau? Mais parce que je fais ce que je veux, en fait, Rasendo Ninja devenu barbu. Parce qu'en fait, je fais ce que je veux, en fait. Parfois c'est de l'eau, parfois c'est du coca, parfois c'est du... Je fais ce que je veux en fait. Voilà. C'est dingue ça. Mais en fait, c'est quoi le truc? C'est qu'en fait, tout le monde est dans le jugement de ce que tout le monde fait tout le temps, quoi. Vous passez votre temps à juger les... Ben, en vrai, quand vous êtes avec des amis ou de la famille, vous êtes en mode... Ah, mais tu manges ça? Mais tu bois ça? Mais c'est... Mais ta gueule en fait! C'est ça le monde d'aujourd'hui? Putain, mais merci quoi. Ben j'en veux pas, hein. Mais laissez les gens respirer, hein. C'est incroyable ça. Mais c'est ça aujourd'hui la société dans laquelle on vit. Et on n'est pas sur Twitter ici, hein. J'adore. Alors bossons un peu sur les sujets intéressants. 17h aujourd'hui, il sera 17h ce lundi, tous les regards seront braqués sur une seule salle de l'Assemblée, c'est à 17h. Climax du feuilleton sur le projet de loi immigration sous gouvernement, lequel s'étire en longueur depuis plus d'un an. La commission mixte paritaire va se réunir pour décider du sort de ce texte maudit, les grands mots. 7 députés et autant de sénateurs, 7 et 7, 14, politiquement représentatifs des équilibres politiques des deux chambres, donc avec une, par exemple, un Sénat qui est dominé par la droite, par exemple, donc clairement, bah, dans cette CMP, vous allez avoir plus d'élus de droite qui en a à l'Assemblée, par exemple, vont examiner les 91 articles de la loi telle qu'elle a été votée au Sénat mi-novembre dans une version plus dure, je vous le disais, donc plutôt contre l'immigration que celle souhaitée par le gouvernement. Objectif, parvenir à un compromis entre la version originale du texte dont je vous parlais, mitonnée par la Macronie, et celle durcie par le palais du Luxembourg, donc c'est le Sénat du inconnu. Magie de la CMP, tout peut y être réécrit. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fascinant. Magie de la CMP, tout peut y être réécrit si une majorité des 14 votants se mettent d'accord dessus. Les 14, là, les 7 et 7 de la CMP peuvent réécrire le texte comme ils veulent. Il peut y avoir des énormes surprises. Et c'est d'ailleurs pour ce... avec une CMP qui est plutôt dominée par la droite. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour cela que les négociations... Ah putain, j'ai des rototos de Coca Zéro. Ah, vous a... en fait, vous aviez raison. Putain, j'aurais pas dû boire du Coca Zéro, même ouvert depuis hier soir. Je suis en train de faire des rototos en pleine revue de presse. Vous aviez raison depuis le début. Je retire tout ce que j'ai dit. Je suis en mode rototo. Vous aviez raison, en fait. Oh, zut. Mais on a toujours raison, je sais. Le chat a toujours raison, je le sais. Ah, du coup, je rebois un petit coup. Et c'est d'ailleurs pour cela que les négociations ont en réalité commencé bien en amont. C'est quand même fascinant que cette CMP puisse réécrire le texte comme elle le souhaite. Ça fait donc plusieurs jours que le gouvernement échange uniquement avec les dirigeants LR, très présents dans cette CMP. C'est tout, c'est clair, vous comprenez tout. Seul à même de permettre le vote du texte, tant dans le secret du huis clos de la CMP, parce que rien n'est public dans ces débats, hein, qu'à l'Assemblée, qui en plus devra voter quand même sur la version qui va sortir de la CMP. Ok, tout le monde a compris ? Et ce, dès mardi après-midi, si un accord est trouvé ce lundi. Bon, bah, on va suivre l'actualité de ces prochains jours. Le CMP, c'est Commission Mixte Paritaire Framboise. Voilà. Est-ce que la CMP va se mettre d'accord sur un texte ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce texte ? Ce texte va ensuite repartir à l'Assemblée. Est-ce qu'il va être voté ? Ça fait beaucoup, beaucoup de conditions de si pour savoir si ce texte va définitivement être voté. Passons maintenant aux européennes. Bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est... J'adore cet humour dans le chat. Je vous aime vraiment très fort. Parlons de politique avec les européennes, puisque c'est le prochain scrutin qui nous est proposé. Voilà. Européenne 2024, le RN, c'est dur à dire. Le RN, c'est dur à dire le RN, en vrai. Le RN. Bon, peu importe. Gagne encore du terrain. À 6 mois du scrutin de juin, un sondage Ipsos Soprasteria, bon, c'est une enquête qui est assez large, hein. Ouais. En partenariat avec Le Monde, place l'extrême droite largement en tête à L3. Les listes Rassemblement National, 28% des intentions de vote. Reconquête, vous savez, Éric Zemmour, 6,5%. Et Debout la France, 2,5%. On arrive à 37% des intentions de vote pour le camp de l'extrême droite. 37% des intentions de vote, c'est beaucoup. La deuxième place de Renaissance, donc partie de la majorité actuelle, 20%, traduit un effritement du bloc central qui se poursuit. La gauche reste stable, à un niveau assez élevé, hein, 32,5%, mais reste très divisée. Ça, c'est pas très nouveau. El Gabios, merci beaucoup pour ce soutien. Alors, allons un peu dans le détail. D'abord, je vous ai fait un joli petit rond là, avec mes petits doigts sur les résultats de cette enquête. Donc ça donne en tête le RN 28%, ensuite Renaissance 20%, Renaissance, Modem et Horizon, hein. Parti Socialiste 10,5%, avec une liste un peu particulière, je vous en parlerai. ELV, les Verts, donc juste derrière 9,5%, 8% la droite, les Républicains. La France Insoumise, 7,5%. Pourquoi je vous dis pas la NUPES en additionnant tout ça ? Parce qu'en fait, bah, ils ne sont pas mis d'accord pour une liste unique. Hein. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon et LFI voulaient une liste unique. Mais en fait, les socialistes, les écologistes et les communistes ont dit bah, non, en fait. Parce qu'en fait, on a plus de chances d'avoir des élus en y allant seul au combat qu'ensemble. Donc ça donne le PS 10,5%. ELV 9,5, la droite LR 8, la France Insoumise 7,5, Reconquête Éric Zemmour 6,5, qui est au niveau des intentions de vote pas très loin de la France Insoumise, vous avez vu, 3% pour le Parti Communiste, 2,5% pour Debout la France, ouais, qu'est-ce qu'on a encore, Lutte Ouvrière et le NPA, nouveau parti anticapitaliste, 1,5%, le PRG, le Parti Radical de Gauche, 0,5%, une toute nouvelle liste, on parlera peut-être dans les prochains mois, Chasseurs et Ruralité, pour l'instant, qui n'est crédité que de 0,5%. On est à plusieurs mois de ces élections européennes, ça ne vaut rien. Un sondage à X mois d'une élection, ça ne vaut rien. Mais c'est une indication. Lisons le papier, je zoome un petit peu. La liste du RN conduite par Jordan Bardella. C'est Jordan Bardella, donc le président du RN, qui emmène le RN au combat, a pris de l'avance sur ses concurrents, part de haut dans un bloc d'extrême droite de plus en plus large, hein, qui est une tendance de fond depuis des années, vous le savez, montre la deuxième vague de l'enquête électorale réalisée par Ipsos et Histoprastoria, c'est-à-dire en partenariat avec le CEVIPOF, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po, et Le Monde. On est sur une enquête qui ne porte pas sur 1500 personnes, je crois qu'un sondage pourrait être considéré comme représentatif, il doit porter sur au moins 1500 ou 1100 personnes, je ne sais plus. Là, on a une enquête qui porte sur 11 691 personnes. C'est assez rare que les enquêtes portent sur autant de gens. Donc, les spécialistes des sondages disent que c'est un peu plus fiable, avec une marge d'erreur allant de 0,2 à 1,1 point de pourcentage. Le Monde écrit lui-même que c'est beaucoup trop précoce. Trop précoce pour dire quelque chose de la ligne d'arrivée, hein. L'enquête permet de mesurer un point de départ, voilà, qu'on va suivre après les évolutions que la dynamique de campagne pourra bien entendu faire varier. Le RN fait la course en tête, rappelle Le Monde, avance confortable sur Renaissance, 20%, troisième position, la liste conduite par Raphaël Glucksmann, donc Place Publique, qui est en passe d'obtenir l'aval du Parti Socialiste, mais ça n'est pas encore fait officiellement, donc pour la gauche, 10,5% pour le PS, devant Europe Écologie Les Verts, et on a vu LFI un peu plus loin. Tout peut encore changer, rappelle Le Monde, qui publie cette enquête, mais qui dit que cette enquête, à quelques mois, ça ne vaut rien. Les gens qui dans le chat qui me disent cette enquête ne vaut rien, Le Monde le dit, pas la peine de dire ce que Le Monde dit. Le Monde est d'accord, mais dit, c'est un élément. Pardon, mais un élément qui confirme la montée de l'extrême droite en France, ce qu'on observe depuis des décennies, et pardon, qui va se voir à coup sûr dans les prochaines européennes, parce que c'est une tendance de fond dans notre pays, moi je trouve ça intéressant. Tout peut encore changer dans la campagne, vu l'océan des abstentionnistes et la volatilité de ceux qui pensent aller voter, mais le tableau dressé par cette seconde vague augure de défis considérables pour le bloc macroniste, la droite traditionnelle et la gauche. La tripartition héritée de la présidentielle. Hein, vous savez, longtemps en France, il y a eu globalement deux camps, notamment sous la 5e, gauche, droite, pour faire simple, voilà, et une alternance. Et là, depuis quelques temps, on est dans une tripartition avec trois, non pas trois partis, mais trois blocs. La tripartition héritée de la présidentielle et des législatives perdure. Le bloc central s'effrite, tandis que l'extrême droite gagne du terrain pour atteindre un niveau inédit. AL3, les listes du RN, du parti d'Éric Zemmour, Reconquête et Debout la France, atteignent 37%. C'est un niveau historique. Rien que cette phrase m'intéresse. Ce n'est qu'un sondage. Ça ne veut rien dire. Tout peut changer. Mais cette mesure du vote d'extrême droite en France, aujourd'hui, eh bien, est à un niveau historique. Et ça, je trouve ça intéressant. Les écologistes, bon, on a regardé les chiffres déjà. Allez, je vous lis un petit peu là-dessus. Let's go. Quentakin, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous dites? Alors, Chora n'est pas d'accord. Utiliser le terme d'extrême droite pour qualifier trois partis qui n'ont aucun lien politique à part la lutte contre l'immigration, c'est un peu malade comme procédé. C'est subjectif. C'est un positionnement de cette chaîne, de Papy Sam, mais c'est un débat qu'on a. Je considère que le RN... qui a succédé au FN est un parti d'extrême droite pour les raisons historiques, en raison de ceux qui ont fondé ce parti, en raison des prises de position de ses élus régulièrement, des condamnations pour racisme, incitation à la haine raciale, antisémitisme qui ont marqué l'histoire de ce parti. Pour moi, c'est un parti d'extrême droite. C'est un débat. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Aujourd'hui, je considère que le RN est un parti d'extrême droite. Éric Zemmour, qui est à droite du RN, bon bah assez logiquement, je ne mêle pas. Hein, bon, voilà. Et puis, debout la France, Dupont-Aignan, qui a une histoire politique un peu plus complexe, au vu de ses prises de position de ces dernières années. Le Monde le classe également dans ce camp de l'extrême droite. Voilà. Je vous lis. C'est un débat qu'on a quasiment tous les jours depuis 3 ans sur cette chaîne, donc vous m'excuserez de ne pas avoir le débat sur ce qu'est l'extrême droite ou pas, hein, puisque là, il faudrait vous taper tous mes streams depuis 3 ans, et si vous avez du temps, je vous invite à le faire. Mais on ne va pas faire tous les jours qu'est-ce que l'extrême droite, est-ce que l'extrême droite, on ne va pas faire tous les jours La NUPES, pourquoi je dis pas que c'est l'extrême gauche? Parce que l'extrême gauche est autre chose. Pas tous les jours. Vous vous retapez les replays, on peut pas faire ça tous les matins, sinon je suis 12 heures par jour en live et ça le fait pas. Le 49.3 JB, j'en ai beaucoup parlé, c'est pareil, le débat sur le 49.3, on peut pas l'avoir ce matin, je l'ai fait 1000 fois aussi, je suis désolé, je peux pas refaire tous les matins à chaque fois, quoi. Mais tout ça, c'est des questions passionnantes. C'est bien pour ça qu'on les a beaucoup abordées dans le passé. Est-ce que le RN est un parti d'extrême droite encore aujourd'hui? Et pourquoi ne pas parler d'extrême gauche pour parler de la NUPES? Est-ce que le 49.3 est un outil démocratique ou antidémocratique? Tout ça, vous avez raison, ce sont des sujets essentiels. Mais je ne peux pas les traiter tous les matins parce que je les ai traités déjà 1000 fois. Et les habitués de cette chaîne vont me dire « Attends Samuel, tu radotes, j'en peux plus de ta chaîne. » D'ailleurs, le débat aujourd'hui, il est plus sur le Coca-Zéro, si je puis me permettre. Vous avez des gens aujourd'hui, vous avez certains... Comment les qualifier d'ailleurs? Vous avez des gens... on aura l'occasion d'en parler un jour. Un jour, je vous mettrai un article de côté sur ce sujet. Vous avez des gens, les gens qui pensent la politique en France, des politologues de ce type-là, effectivement, ou des journalistes qui ont pu être très marqués à gauche, qui disent depuis quelque temps, depuis peu de temps, ils disent non, on ne peut plus qualifier aujourd'hui l'actuel RN de Marine Le Pen de parti d'extrême droite pour telle ou telle raison. Voilà, ce débat, il existe. Je ne suis pas tout à fait convaincu, mais ce débat, il existe. Salut aux Polonais et aux Polonaises qui nous regardent, puisque je vois que TC nous regarde depuis la Pologne. Il y a Mister Yugis qui dit « Sinon, ça a l'air de faire plouf la liste des chasseurs pour l'instant. » Alors, ça fait plutôt « pain », si je peux me permettre, que « plouf ». Ok, cette blague est nulle. Mais effectivement, pour l'instant, ça marche pas très fort. Ok. Bon, on va suivre ça. On a le temps de parler des européennes, bien sûr. Moi, ici, on aime bien parler de tout ce qui fâche, tout ce qui provoque des débats. Voilà, parce qu'on s'en fout, parce que c'est pas grave. Si parfois il y a un petit peu de tension dans le chat. Ici, on parle de tout ce qui se passe et tout ce qui ne va pas dans notre monde pour essayer de réfléchir ensemble là-dessus. Et je vous parle quasiment tous les jours du Proche-Orient, Inforéa, merci, j'espère que tu vas bien, merci pour le 23e mois d'abonnement. Gaza, où on en est, j'essaie de vous parler tous les jours de ce qui se passe au Proche-Orient. On a quelqu'un qui s'appelle Dominique Moisy, qui n'est pas du tout journaliste, qui est géopolitologue, spécialiste des questions internationales. Je trouve que c'est quelqu'un de très brillant, dont le regard sur l'actualité internationale est vraiment souvent passionnant. Et qui fait un petit point sur là où on en est, notamment dans la bande de Gaza, et nous dit, est-ce qu'il y a une solution pour sortir de ce cycle mortifère de la violence au Proche-Orient? Qui dit, il y en a une, mais c'est un chemin extrêmement étroit. Hein, la porte étroite dont parlait André Gide il y a longtemps dans un roman. Lisons cet article. C'est plutôt ce billet, cette prise de position, cette analyse signée Dominique Moisy. Let's go. La réunion, dit Dominique Moisy, d'une grande conférence internationale sur l'avenir d'Israël et de la Palestine est quasi impossible, mais il n'existe aucune autre solution. J'adore cette phrase. On est sur des sujets extrêmement complexes. Parfois, on aimerait dire c'est noir, c'est blanc. Voici le camp du mal, voici le camp du bien. Et puis, moi, je sais, je peux vous dire, je peux vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous dire la vérité, ce que les médias vous cachent. Et puis, il y a des solutions. Voilà ce qu'il faut faire. Les gens qui ont ce rapport à l'actualité, puis parfois les gens qui vous disent c'est super compliqué, il y a une seule solution, elle est quasiment impossible, mais c'est la seule solution. Je trouve que l'article est passionnant. Après 70 jours, quel premier bilan tiré de la guerre de Gaza, dit Dominique Moisy? Serait-il possible de parler de victoire à la Pyrrhus, donc victoire avec des dommages catastrophiques pour le vainqueur, à la fois pour le camp palestinien et pour le camp israélien. Le Hamas a incontestablement replacé la question palestinienne au cœur de la scène régionale et internationale. Cette question palestinienne qui avait été totalement oubliée ces dernières années par la communauté internationale. La barbarie délibérée de ces actes le 7 octobre dernier n'avait pas seulement pour objectif de rendre impossible toute normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes, notamment Riyad, mais au-delà, toute possibilité de paix entre Israéliens et Palestiniens. Salut French Guillaume. Il fallait que la vengeance de l'État hébreu et son coût pour la population civile de Gaza soit à la hauteur de l'atrocité des crimes commis par le Hamas le 7 octobre. Pour autant, le prix de cette victoire politique est considérable, non seulement pour les habitants de Gaza, mais pour Israël lui-même, écrit le géopolitologue. En l'espace de plus de 2 mois, il est probable, même si les chiffres sont difficiles à vérifier, que le Hamas ait perdu près de 40% de ses commandants militaires et jusqu'à un tiers de ses combattants. On parle de 5 à 7 000 hommes. Je voudrais aussi qu'on pense à toutes les victimes civiles de la bande de Gaza. Le schéma est exactement inverse pour Israël, marquant des points incontestables sur le plan militaire. L'État hébreu continue d'en perdre sur le plan diplomatique et politique. Bien plus grave pour Israël, sa relation avec son principal allié et soutien, donc les États-Unis, est presque devenue conflictuelle actuellement. C'est compliqué. Pour Joe Biden, Benjamin Netanyahu ne fait que répéter les erreurs commises par les États-Unis dans le passé, par Washington dans le passé, notamment au lendemain des attentats du 11 septembre, en se fixant des objectifs qui ne peuvent pas être atteints. On n'éradique pas une organisation terroriste, on crée de nouvelles pousses en abattant ses branches les plus hautes les unes après les autres. En préparant avec ses bombardements massifs à Gaza de nouvelles générations de terroristes, Israël s'inflige donc pour Dominique Moïsi une défaite stratégique à long terme qui va au-delà des gains tactiques à court terme du moment qu'il peut marquer actuellement sur le terrain. Le problème est qu'il existe une logique autodestructrice dans la stratégie poursuivie par Israël pour anéantir définitivement le Hamas et ses tunnels profonds et multiples. Sans mettre trop en danger la vie de ses soldats, Jérusalem a recours à des bombes toujours plus puissantes qui ne peuvent qu'infliger des pertes lourdes, voici les civils, à la population civile d'un espace aussi surpeuplé que la bande de Gaza. Alors vu de Jérusalem bien sûr, la comparaison entre l'après 11 septembre et l'après 7 octobre ne tient pas. Si le 11 septembre est une terrible tragédie dans l'histoire de l'Amérique, ça n'est pas un défi existentiel au sens littéral du terme qui ne remet pas en question l'existence des États-Unis, comme peut l'être le 7 octobre pour Israël. Pour Jérusalem, tant que le Hamas contrôlera Gaza, les habitants du sud d'Israël ne pourront pas retourner vivre chez eux. Et pour de nombreux dirigeants israéliens, ce raisonnement s'applique aussi au nord du pays. Ça, c'est la vision d'Israël, ou en tout cas de certains Israéliens. Contrairement à ce que pense Benjamin Netanyahu, écrit encore Dominique Moïsi, il n'existe pas de solution purement militaire au conflit. On peut même se demander s'il y a encore des solutions politiques après la multiplication des colonies de peuplement en Cisjordanie. Et on peut même se demander s'il y a des négociateurs. Est-ce qu'il y a encore des parties qui peuvent négocier ? L'autorité palestinienne est totalement discréditée. L'autorité palestinienne, vous savez, qui régit non pas la bande de Gaza, mais la Cisjordanie. L'autorité palestinienne est totalement discréditée. Corruption, incapacité politique, bon bref. Benjamin Netanyahu ne survit politiquement que grâce et par la guerre. Laisser la recherche d'une solution politique entre ces deux parties directement impliquées serait la garantie d'un échec. Quand une question est à ce point compliquée, et en apparence sans issue, hein, c'est ce que tout le monde dit du Proche-Orient, il n'y a aucune issue possible, ça dure depuis des décennies, on ne va jamais en sortir. Quand une question est à ce point compliquée, en apparence sans issue, la seule alternative parfois est de la rendre plus complexe encore. Le monde n'est-il pas venu de commencer à songer à la convocation d'une grande conférence internationale qui réunirait autour des Israéliens et des Palestiniens les dirigeants des pays arabes et les représentants des grandes puissances, à commencer par les États-Unis, la Chine, l'Inde et les principaux membres de l'Union européenne. Cette proposition d'une grande conférence internationale sur le conflit opposant Israéliens et Palestiniens, une de plus, hein, il y en a eu plein dans le passé, n'est ni très originale, dit Dominique Moïsi, ni très réaliste. En 30 ans, la situation s'est considérablement détériorée. Ce qui était difficile au moment de Madrid 92, d'Oslo 93, 95 paraît aujourd'hui presque impossible. Mais existe-t-il une alternative ? S'interroge Dominique Moïsi. Personne ne paiera pour la reconstruction de Gaza sans l'existence d'un espoir de solution politique au conflit israélo-palestinien. Dominique Mozy dit c'est quasi impossible qu'on arrive à organiser une grande conférence internationale sur le problème israélo-palestinien, et pourtant, c'est la seule solution. Voilà où on en est. Selon Dominique Moïse, je vous lis. Je pense pas qu'on va régler le conflit. Hein, je pense que soyons un peu modestes. Je ne pense pas qu'on puisse régler le conflit du Proche-Orient ce matin sur Twitch. Mais je voulais quand même. Tant qu'Israël n'appliquera pas les résolutions de l'ONU, ça n'avancera pas, dit Terry Boldou. Pas faux. Avenland, le seul qui pourrait, ce sont les États-Unis qui pourraient mettre une pression économique énorme sur Israël pour les pousser à négocier. Bon, les relations sont pas mal dégradées ces derniers jours. Martin Martin, notre DJ préféré sur Twitch, allez voir la chaîne de Martin Martin. Underscore M2X vient de nous raid avec un groupe de très nombreux, de 103 spectateurs. C'est marrant les raids parce qu'en fait ça donne un chiffre, mais en fait ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de monde sur le stream de Martin Martin, mais il y avait toujours une perte, voilà. Donc je suis sûr qu'il y avait une belle ambiance. Je suis sûr que Martin a mis une belle ambiance encore ce matin. Chaque fois que je tombe sur tes streams, j'ai une énergie de fou, un beau gosse, voilà, avec le corps que j'aurais si moi aussi je pouvais me mettre au sport. Allez voir, incroyable. Apollon qui mixe, c'est un vrai spectacle, qui met de bonne humeur avec une belle énergie. À chaque fois que je te vois passer en stream ou sur les réseaux, ça me donne la banane. Me dit, il est là, il est bien et il donne du sourire à plein de gens. Voilà, bravo à toi. Merci pour le raid aussi. Allez voir cette chaîne, Martin Martin underscore M2X. Les modos vous ont mis le lien dans le chat tout en haut. On parle du Proche-Orient, Martin. Mais on a des sujets un peu plus légers qui arrivent. Vous êtes plusieurs à évoquer un changement nécessaire politique à l'intérieur d'Israël. Tant que le gouvernement d'Israël sera dominé par l'extrême droite comme actuellement, c'est vrai que ce sera compliqué. Et Clé Martin Martin qui dit je fais tout pour avoir le même corps que toi. c'est l'inverse. Tu cours toujours autant, Samuel, me dit Dojack. J'ai pas mal levé le pied, mais je vais m'y remettre très sérieusement puisque j'ai un gros projet sur Twitch qui est pas encore officialisé, mais qui va se faire, qui va commencer là en janvier autour du sport. Voilà, Martin, je pense que ça va t'intéresser. Un gros projet autour du sport et de la course à pied sur Twitch. Donc pour le coup, je vais devoir m'y remettre que je le veuille ou non. Voilà. Sinon, ça ne va pas le faire. Mais on va se régaler. Merci KenSuicis pour le troisième mois d'abonnement. Allez, on enchaîne. Moi, j'aimerais qu'on ait une petite pensée ce matin pour tous les Français et les Françaises qui sont obligés d'aller au Resto du Cœur tout simplement pour survivre, pour bouffer. Quoi. Et Libération a cette pensée aussi en allant voir, regardez, c'est la une de Libé ce matin, en allant voir des bénévoles, et bravo à eux. Souvent, question pour un champion, j'ai des candidats, candidates qui sont bénévoles dans telle ou telle organisation caritative, humanitaire. Beaucoup de bénévoles des Restos du Cœur. Et chaque fois, je leur dis bravo, en fait. Ah, vous pourriez passer votre temps à regarder des séries en mangeant des chocolats et vous donner du temps pour les autres. Je dis GG à vous, quoi. Donc, Libé a fait ça, est allé voir des bénévoles des restos dans l'Ain et dans la Drôme. Des bénévoles qui tentent de s'adapter à la hausse massive du nombre de bénéficiaires. Et c'est ça dont Libé parle aussi. C'est un peu compliqué. Tout ça est résumé dans l'édito de Libération. Et après, on ira un petit peu plus loin avec l'article. Ah, c'est cool. Framboise, ma boîte de stage m'avait accordé une demi-matinée pour faire bénévole au resto. C'était une expérience incroyable, mais difficile aussi. Oh, Marlon, j'y allais au resto. Enfant et ado, merci aux bénévoles. Thibaut, je suis bénévole au resto, je viens de t'entir, merci à toi Sam. Oh bravo. Mon père est... Oh putain, j'arrête les articles, je lis le chat. Mon père est bénévole au resto depuis qu'il est à la retraite. Murph, c'est exactement ce dont on va parler ce matin. Grand respect au resto du cœur, tellement obligé, tellement compliqué que même après avoir augmenté le critère, durci le critère pour avoir accès au resto, ils sont obligés de refuser des gens. C'est exactement ce dont on va parler ce matin. Multicol, j'y allais aussi par le passé. Maintenant, j'ai trouvé quoi, tu dis? Dis quoi? Il y a un mot, je ne comprends pas. Ça va mieux, en tout cas, c'est ça qui est important. Mon père y était aussi avant de tomber malade, merci aux bénévoles. Oh. Bravo à vous. Je savais même pas qu'il y avait des critères. Ouais, il y a des critères. Il y a des critères parce qu'ils peuvent pas répondre à tous les besoins en fait. Alors, Caroline Estorme nous raconte une expérience qui a été dure. J'ai été bénévole, mais pas longtemps, parce que ça m'a mise en dépression totale. Des gens plus jeunes que moi venaient, et c'était une vraie horreur sociale et humaine. Ah, Divis, c'est du taf. Attends, j'avais pas la ref. Putain, c'est dur d'être confronté à la jeune génération. Il y a des mots que je comprends pas. Divisve. Divi avec un Y et un Z. Divisve. Ça veut dire du taf. Vous connaissiez ce mot, vous? Imprononçable. Pourquoi tu dis pas du taf juste? Comme ça, moi, un peu, je peux comprendre après. Jamais entendu ce mot, me dit Fanfounator. Je pense qu'il a écrit juste trop vite. Faute de frappe. Ah ben alors, c'est juste une faute de frappe. Ah! Je croyais que c'était un nouveau mot. Cool. Ça m'a rassuré, je me suis dit, mais qui a inventé ce mot, quoi? Ok. Lisons l'éditorial de Paul Quignot. Annie est bénévole au Resto du Cœur dans la Drôme depuis qu'elle est en retraite. Bravo à elle. Et tous ces gens qui restent sur le carreau, eh bien, ça la perturbe. Sandrine, elle bosse pour l'association fondée par Coluche dans l'Ain et parfois a du mal au ventre à l'idée de devoir réduire le volume d'un panier accorder un bénéficiaire pour qu'il y en ait pour tout le monde. Car Annie, comme Sandrine le confirme, l'affluence au resto est montée en flèche cette année, dopée par l'inflation des produits alimentaires, et ça on va en parler ce matin, qui a baissé moins vite que l'inflation en général. Annie et Sandrine sont généreuses, mais nous ne sommes pas allés les voir pour convoquer je ne sais quel esprit de Noël, dit Paul Quignot, et rappeler à quelques jours des fêtes que la générosité reste une qualité française. Nous sommes allés les voir pour rappeler qu'elles font, donc ces deux bénévoles, comme des milliers d'autres bénévoles dans des centaines d'associations caritatives, un boulot formidable. Et que si elles prennent de plus en plus souvent comme des uppercuts cette inflation de situation personnelle très difficile, elles continuent de faire le job. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et attention, Libération passe en mode attaque. Alors, dignité et conscience quasi professionnelle, les acteurs des secteurs de l'agroalimentaire, les fournisseurs, les distributeurs opposent un cynisme consternant. Pour simplifier l'IB, il se renvoie la patate chaude des marges sur le thème « c'est pas nous, c'est eux, producteurs, distributeurs ». Résultat, il balade tout le monde depuis des mois, gouvernement compris. L'exécutif s'est lui montré incapable de taper du poing sur la table. Il a fait le job à un moment pour amortir l'inflation sur l'énergie, dit l'IB, mais pas là. D'aucuns argumenteront que sortir le chéquier en permanence n'est pas une solution, peut-être. Mais dans ce cas, il fallait faire preuve d'une volonté politique pour tordre le bras aux acteurs de l'agroalimentaire, de la grande distribution. Ça n'a pas été le cas. L'IB qui nous dit noir sur blanc ce matin que les acteurs du secteur agroalimentaire, dans la production et dans la grande distribution, ont une responsabilité sur l'inflation qui a touché les produits alimentaires et donc sur le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont dû aller au resto du cœur pour se nourrir. Nickel, merci pour le soutien. Je vous lis l'article pour aller plus loin. Le 26 septembre 85, on va rendre hommage à Coluche aussi. Coluche lance en direct sur Europe 1 sa petite idée comme ça, dit-il très modestement à l'époque. Celle d'une cantine gratuite, nourrie de dons pour qu'il y en ait pour tout le monde, sa manière politico-potache, hein, c'était Coluche, de faire œuvre de solidarité en attendant un jour meilleur, ce jour meilleur qui n'est jamais arrivé. Près de 40 ans plus tard, 1,3 million de personnes pauvres dépendent des petites mains des Restos du Cœur en France. 1,3 million. En 85, combien de repas avaient été distribués ? 8 millions de repas avaient été servis à l'hiver 1985. L'association en a délivré 171 millions en 2022-2023. Hiver 85, 8 millions de repas. 2022-2023, 171 millions de repas. Un tiers de l'aide alimentaire du pays. Les personnes âgées, les femmes seules, les grandes familles sont de plus en plus nombreuses à venir au resto. En un an, la hausse des demandes a été massive, brutale, entre 15 et 20% de plus de demandes en un an. En novembre, pour la première fois de son histoire, l'association a commencé à refuser du monde, pour la première fois de l'histoire des Restos du Cœur. Selon son estimation, la campagne de cet hiver pourrait exclure près de 140 000 personnes auparavant accueillies par les Restos. Nous allons aussi donner moins en quantité, a prévenu le patron des Restos du Cœur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les prix de l'alimentaire ont fortement augmenté. Une partie des distributions des restos, vous le savez peut-être, viennent des dons en nature des citoyens et des citoyennes françaises qui donnent des conserves, etc. Mais il y a une grosse partie aussi qui est achetée directement par les restos avec les dons. Et le problème, c'est que ces produits alimentaires ont beaucoup augmenté. D'où l'accusation de Libé, voilà, l'alimentation toujours très frappée par l'inflation. Les produits alimentaires particulièrement touchés par le phénomène ont vu leur prix encore augmenter de 7,7% sur un an en novembre, selon l'INSEE. 7,7% d'augmentation en novembre. Le choc inflationniste d'une ampleur inédite en France depuis les années 80 a d'abord touché les prix de l'énergie, vous vous souvenez, avant d'atteindre par ricochet ceux de l'alimentation, également soutenu par l'appréciation des cours de certaines matières premières agricoles et par les confortables taux de marge de l'industrie agroalimentaire. Ces derniers sont 10 points au-dessus de leur niveau d'avant les crises en 2019. Sur le débat sur est-ce que les gros groupes de l'industrie agroalimentaire margent plus, gagnent plus qu'à une autre époque sur la bouffe, ce chiffre selon Libé, le taux de marge de l'industrie agroalimentaire serait de 10% au-dessus d'avant la crise en 2019. Non seulement en deux ans, les prix de l'alimentation ont augmenté d'environ 20%, mais ils sont aussi ceux qui tardent le plus à retrouver des niveaux modérés. Quand le dernier pointage de l'INSEE fait état d'une inflation moyenne de 3,5% en novembre sur un an, elle est encore de 7,7%, hein, donc plus du double sur les produits alimentaires. Donc, Libé accuse le secteur de l'agroalimentaire d'avoir augmenté ses marges, d'avoir augmenté ses prix, de ne pas les baisser suffisamment rapidement, alors que l'inflation reflue en France. Rien que sur les 12 derniers mois, le prix du sucre a augmenté de 32%, le prix de l'huile de 18,5%, des pommes de terre de 15%, les céréales pour le petit-déj de 14%, le riz de 11%, le lait demi-écrémé de 10%. Évidemment, les ménages les plus modestes, ceux dont la part du revenu est la plus importante consacrée à l'alimentation, sont les plus touchés par cette inflation. Ce choc, si le choc de l'augmentation des prix alimentaires, l'exécutif n'a pas cherché à l'amortir autant que celui de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a eu des efforts, enfin, des initiatives de l'exécutif, Libération le dit d'ailleurs, mais pas au niveau du fameux bouclier, vous savez, énergétique. Aucun bouclier n'a été mis en place cette fois, aucun chèque directement fléché n'a été distribué, aucun mécanisme de récupération des produits, des profits indus n'a été mis en place. Au lieu de cela, le gouvernement a négocié avec les distributeurs pour instaurer un trimestre anti-inflation qui a été relancé le 15 mars. Renouvelé, il a pris fin mardi. Environ 5000 produits étaient concernés par ce trimestre anti-inflation par enseigne, sans que l'impact ne puisse être lisible dans les données statistiques. Libé nous dit que ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Il a aussi fait le gouvernement passer une loi en novembre afin d'anticiper les traditionnelles négociations entre fournisseurs et distributeurs, dans l'espoir d'accélérer la répercussion dans les rayons des baisses des cours des matières premières. Au lieu de se clore le 1er mars, ces négociations vont se terminer fin janvier. Mais les résultats non plus là ne sont pas garantis, nous dit Libé. Il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix en 2024, insiste qui ? Le lobby de l'agroalimentaire qui s'appelle l'ANIA, A-N-I-A, arguant que les coûts pour les entreprises n'ont pas baissé. Eux, ils disent non, nous on n'a pas augmenté nos marges, nos prix, pas au-delà de la hausse du prix des matières premières, c'est pas de notre faute. Face à la mise en cause récurrente des marges des entreprises, l'ANIA a jugé rigoureusement inadapté les statistiques de l'INSEE à ce sujet, donc ce serait l'INSEE qui dirait n'importe quoi, selon l'ANIA. Quatre associations de consommateurs ont rappelé le président de la République à sa promesse formulée en septembre lors d'une interview à la télé, celle d'un accord sur la modération des marges dans tout le secteur alimentaire. Voici pour le papier de Libé. À vous. Pas faux. Mister Yogi dit sauf que le bouclier tarifaire sur l'énergie n'était pas pour les entreprises, que pour les particuliers, ce qui est vrai. Donc il y a forcément une répercussion sur les prix, sans oublier les matières premières. Juste. Amwadigo, Sam, quand l'inflation repasse à 4%, l'augmentation de l'an passé ne peut pas baisser, il continue de monter. Tu parles des prix, mais moins vite, c'est mathématique. Il faudrait que l'inflation soit négative pour une baisse. Je vous lis. Hein. Je vous lis. Alors, débat macro et microéconomique dans le chat. Goupil, un truc à noter, maintenir ses marges, c'est augmenter ses prix au-delà de ses coûts. C'est vrai aussi. Exemple, coût de 50 euros pour un chiffre d'affaires de 100 euros, marge de 50%, coût de plus de 10 euros, chiffre d'affaires de plus de 20 euros. C'est ça le problème. Les marges constantes, c'est du vol. Bon, en tout cas, merci à Libération pour cet article qui salue notamment le travail des bénévoles du Resto du Cœur. Quelqu'un dans le chat me rappelait qu'il y a d'autres associations caritatives en France, bien sûr. Tu as raison de le faire. Allez, un vieux débat, mais un éclairage intéressant du Figaro. Qui se base sur les études scientifiques pour répondre à cette question, les écrans. Les écrans, est-ce que vraiment c'est pas bon pour les enfants? Que dit vraiment la science à ce propos? Leurs effets sur la santé et les apprentissages sont dénoncés, hein, vous connaissez ce débat, mais les études de bonne qualité sont plus nuancées, tout est affaire de contexte et de contenu. J'aime bien l'angle de ce papier, qui est signé qui d'ailleurs? Où il y a ce papier? Qui est signé Pauline Léna. Parce que justement, plutôt que de décréter que les écrans c'est mauvais ou bon, voilà, eh bien l'article dit ben ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend du contenu. Enfin, c'est pas l'article qui le dit, c'est les études scientifiques sur le sujet. Let's go. Je zoome un petit peu. Faut-il faire confiance aux alertes régulières, vous savez, sur les écrans et leurs effets supposés délétères sur la santé et la capacité d'apprentissage des enfants? Pas toujours, ou plutôt pas encore, dit le Figaro. Une gigantesque étude scientifique publiée en novembre dernier dans Nature Human Behavior fait le bilan de la majorité des travaux publiés dans ce domaine et jette un nouveau pavé dans la mare. Les études qui disent que les écrans en général sont mauvais pour les enfants ne sont pas utiles. Ces études ne sont pas utiles car à force de brasser trop large, elles nous apprennent en vérité pas grand chose. Les chercheurs de l'équipe de Taryn Sanders de l'Université catholique de Sydney en Australie ont passé 5 ans, à trier et analyser 2557 méta-analyses sur l'effet des effets des écrans sur les enfants. Ils ont ainsi observé que les travaux qui s'intéressent non pas simplement au temps d'exposition, mais aussi au contenu, bien sûr, de ce qui est proposé et dans quel contexte dessine une image plus nuancée, surtout plus représentative des véritables usages. Seul ce type de données encore trop rare permettra de sortir et de mettre au point des stratégies d'intervention pertinentes et ciblées à la fois pour limiter les risques mais aussi pour profiter des bénéfices qu'apportent les nouvelles technologies. Sur le plan physique, alors que disent les études scientifiques un peu carrées là-dessus ? Sur le plan physique, le sommeil semble effectivement impacté par les écrans de manière négative. Alors, est-ce que c'est la lumière bleue des écrans qui fait ça ? Est-ce que ce sont les contenus un petit peu excitants qui laissent le cerveau en éveil ? Ou tout simplement le temps pris sur le sommeil, hein, plus on regarde de séries le soir, plus on joue aux jeux vidéo, moins on dort, il faut s'interroger. C'est peut-être tous ces critères. Est-ce que ça joue sur la qualité de la vue ? Il semblerait aussi que les écrans augmentent le risque de myopie. Hein ? Mais est-ce que c'est lié spécifiquement aux écrans ? Est-ce que ce sont les écrans qui provoquent ça ? Ou tout simplement le fait de passer trop de temps sur des tâches qui impliquent uniquement la vision de très près ? Hein, dans ce cas-là, la lecture serait aussi problématique. Plutôt les activités extérieures, par exemple, qui sollicitent la vision de loin. On sait, les scientifiques savent que les petits-enfants qui vivent à la montagne, par exemple, ont une meilleure vue que les petits citadins, tout simplement parce que leur œil travaille beaucoup plus. Hein. Ils n'arrêtent pas d'adapter loin, près. Voilà. Et quand on fait travailler son œil uniquement de près, tout le temps, et l'horizon des petits citadins, il est parfois limité parce qu'il y a des murs un peu partout, eh bien on sait que l'œil devient paresseux et devient parfois myope. Les ch'tites d'enfants, exactement. Dernier axe d'inquiétude que soulignent les études, sur le poids, l'obésité. Là encore, plus encore que sur le sommeil et la vision, les effets sont sans doute indirects, donc c'est pas les écrans qui font grossir, mais la sédentarité, le grignotage éventuel pendant l'usage. Moi je connais un streamer qui boit du coca pendant ses streams, vous vous rendez compte ? Alors forcément, c'est pas les écrans, là c'est le coca, il ferait mieux de boire de l'eau. Et moi je pense qu'il faudrait attraper par le col ce streamer et le traîner sur la place publique, interrompre ses streams au moment où il parle de chômage, d'immigration du Proche-Orient, et de le prendre comme ça en lui disant « mais qu'est-ce que c'est horrible !» Voilà. Et je pense qu'on devrait le mettre en prison, qu'on devrait le poursuivre, qu'on devrait le mettre sur la place de grève, qu'on devrait lui coincer les bras, et les gens lui jettent des œufs et même des pierres. Voilà ce qu'il faudrait faire. Excusez-moi, je pensais à un truc. J'en étais où ? Oui. Donc plus encore que le sommeil et la vision, les effets sont sans doute indirects. Sédentarité, grignotage pendant l'usage, c'est très très mal ça, c'est vraiment un scandale. Temps pris sur les activités physiques, exposition, publicité pour des aliments à mauvais score nutritionnel. Donc c'est pas les écrans directement, c'est tout ce qu'il y a à côté, quoi. Sur le plan cognitif maintenant, la cabeça. Les effets négatifs sur le sommeil jouent également sur la plasticité cérébrale, la consolidation des apprentissages. Mais peut-être c'est pour ça que je joue aussi mal aux jeux vidéo, d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que je ne progresse pas beaucoup. Peut-être que je ne dors pas assez. Mais la question plus générale des apprentissages est l'axe majeur de discorde dans le débat actuel sur les écrans. Est-ce que nos enfants sont plus bêtes ou moins savants à cause des nouvelles technologies ? Est-ce qu'il faut les priver d'écran à la maison et ou à l'école ? Là encore, l'étude australienne montre à la fois que les effets délétères, s'ils existent, restent modérés, mais surtout sont tempérés dès lors que le contenu, ce qu'il y a dans l'écran ou le contexte est pris en compte. Exemple. Les écrans envisagés globalement peuvent présenter un risque sur le niveau de compréhension ou d'apprentissage des enfants, mais l'effet observé est au contraire positif lorsque le programme utilisé a une vocation éducative ou qu'un parent participe à leur usage, c'est-à-dire qui regarde avec l'enfant et qu'il crée une interaction pour échanger sur ce que l'enfant regarde. Les études sur les jeux vidéo interactifs ont permis d'observer des effets de transfert de compétences acquises pour le jeu à d'autres moments de la vie des joueurs, comme une plus grande capacité attentionnelle. Par exemple, cette notion d'interactivité était déjà apparue lorsque la télévision s'est développée. Des programmes à vocation éducative où l'attention de l'enfant et une éventuelle interaction étaient sollicités. Un Rue Sésame, par exemple, vous n'avez pas connu, c'est un vieux dessin animé, enfin une vieille émission. Dora l'exploratrice, vous connaissez peut-être mieux, montrait déjà des effets plus positifs que des simples programmes de simple divertissement. Prendre en considération le niveau d'interaction est sans doute la clé pour que chaque parent puisse envisager l'influence des écrans sur le développement et la santé de ses propres enfants. Si les écrans sont en concurrence permanente avec des activités favorables à leur développement intellectuel, comme les discussions en famille, comme les jeux avec leurs amis ou des balades au parc, et bien dans ce cas-là, il faut diminuer les écrans. Vous allez me dire, bon, ce sont des conseils de bon sens. Ben, j'ai envie de dire oui. Si au contraire les écrans sont un soutien pour l'apprentissage ou des opportunités pour interagir avec d'autres humains présents dans la même pièce, famille, frères et sœurs, amis, hein, ils peuvent être utiles. Et si les études montrent bien un effet négatif des réseaux sociaux sur la santé des ados, il y a fort à parier qu'un enfant mis en confiance par les interactions positives dans le milieu familial ou sur les réseaux sociaux, j'ai loupé un mot là. Il y a fort à parier qu'un enfant mis en confiance par des interactions positives dans un milieu familial où les réseaux sociaux ne qualifient pas la valeur d'une existence sera moins vulnérable à la brutalité des comparaisons permanentes qui les caractérisent. En gros, plus un enfant sera épanoui et heureux dans le cadre de sa famille, et moins il sera sensible aux conneries qu'on peut lire sur Twitter. Voilà, je résume un petit peu, quoi. Alors, un russisme, ça passait quand en France, demande Tiparigo, réponse de Bétou Saturne, 1876, donc pendant l'adolescence de Samuel. Bonne réponse. In Suisse, à force de regarder Diego, donc le cousin de Dora, mon petit frère connaissait des animaux inconnus au bataillon pour le reste de la famille. Trop mignon. Shipper, arrête de shipper, Quentin. J'ai la ref. Un rue Sésame, c'est pas si vieux que ça, dit Cyril. Alors ça, Cyril, c'est les vieux qui disent ça. Excuse-moi. MMG7F, tu dors presque moins maintenant que quand t'étais sur France Info, je me trompe. Alors c'était pas ce qui était prévu, mais presque. J'ai chopé un coca chéri vanille, c'est une tuerie. Ça existe le coca chéri vanille en même temps? Putain la vache. Mais vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes des fous, quoi. Mais pensez à votre santé, quoi. Un rue Sésame, date de première diffusion, me dit écrivain, 3 avril 1978. Dernière diffusion, 24 juin 1982. Désolé, mais effectivement, c'est vieux. Désolé, la personne qui disait, c'est pas si vieux que ça. C'est Skybro, bienvenue. C'est bon? Je crois pas trop, mais... Mazev Youyou, merci pour le 10e mois d'abonnement. Putain, 47, Alexia, elle est très très dure. Mon fils de 12 ans n'a pas de téléphone. Il me déteste, mais c'est pour son bien. Voilà. Ah ouais, c'est de l'import. Donc le coca chéri vanille, c'est de l'import. C'est pas... ok. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. J'ai vu chéri. J'ai vu vanille à une époque. Oh, imagine le coca chéri vanille, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Chéri vanille quoi? Qu'est-ce qu'il y aurait encore comme dinguerie? Chéri coco? Non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Chéri bibi, j'ai la ref. Chéri nut... Oh, mais chéri... Attends... chéri vanille Nutella. Cannelle, citron, fraise. Pomme de terre, gingembre, c'est parti. Coco ananas. En Thaïlande, il y a le coca bambou, me dit l'écrivain. Il paraît que c'est une dinguerie. Potiron. Cherry coco, ça existe vraiment? Arrêtez de cherry Nutella. Non, ça n'existe pas, ça. Coca chéri, j'ai rétréci les gosses. Pas mal. Vanille cannelle. Enfin, en vrai, demain, il y a un coca cherry cannelle qui sort. En vrai, je le goûte. T'as coca litchi, quoi. Ce serait un kiff, ça. Cherry FM, j'ai la ref. Coca camembert, non. Coca châtaigne, tu vas pas être mauvais, dit Point of View. Si, je pense que si. Coca châtaigne, je pense que ça doit être dégueu, en fait, en vrai. Putain, t'es con, Randil. Diesel aussi, t'es con. Hein. Heureusement, je vous lis pas, hein. Je vais aller en prison. Hein. Ah, Chéri Coco, c'est une chanson de Magic System? Quoi? Je connais pas cette chanson. Magic System, Chéri Coco. vérification, ici on vérifie les informations, ne se laisse pas traîner dans la désinformation par le chat, on vérifie. Thierry Coco. Attends, je te préviens, Magic System Soprano, Magic System, ok. Yes, ça. Ok. Ok. Donc je ne connaissais pas ça. Ouais. Eh ben, je ne sais pas comment j'ai pu vivre jusqu'au 18 décembre 2023 sans connaître Chéri Coco. Voilà. Je vais me le mettre ou pas dans ma playlist. Voilà. Félicitons les handballeuses françaises championnes du monde. Article dans le Parisien ce matin. Il reste plus que deux articles. Le dernier étant passionnant parce que c'est la question des sources sur YouTube. À quelle heure il est ? 11h31. On est bien. Donc, on félicite les handballeuses françaises championnes du monde, baby. Mais oui. Et de 3, 2003, championne du monde, bam. 2017, championne du monde, bam. 2023, championne du monde, à nouveau sur le toit du monde, écrit le Parisien en battant la Norvège en finale 31-28. La France confirme qu'elle est vraiment la meilleure nation. Ça fait longtemps que ça dure et c'est chouette. Voilà. Dit le Parisien, je ne pensais pas qu'en le 18 décembre 2023, découvrir Chéri Coco et aussi qu'on pouvait écrire et c'est chouette dans un article et je trouve ça bien à un moment qu'il y ait une vraie liberté d'écriture même si je ne m'attendais pas à lire ces mots ici. Quel bonheur! La France est championne du monde et les couturiers peuvent se mettre au boulot pour broder une troisième étoile sur le maillot après celle cousue en 2003-2017 et Eric Michel qui a trempé sa plume dans une encre de bonheur. On n'oublie pas que dans 7 mois commencent les JO et qu'on attend quelque chose d'encore plus beau bien sûr parce que un titre olympique, ce serait une dinguerie. Mais avant de penser à la suite, bien sûr, savourons. Au terme d'un tournoi maîtrisé sans le moindre match perdu, poi. Les Bleus ont battu l'ogre norvégien, leur bête noire. Au-delà de ce triomphe, c'est aussi la réussite d'un sport qui n'en finit pas de remplir nos armoires à récompenses. Hommes et femmes confondus, hein, le handball, c'est le 9e titre mondial du hand français. Seule la Russie, avec 10 titres, dont le dernier remonte à 2009, fait mieux, mais elle n'est pas prête d'en avoir un autre, dit le Parisien. C'est donc très simple, les deux sexes confondus, la France est la meilleure nation de hand de la planète. C'est pas nouveau, mais ça dure, et c'est chouette, décidément. C'est chouette, je pense que c'est... je pense que c'est une expression qui n'a pas été utilisée par quiconque en France depuis 1982. Je pense que personne ne dit plus c'est chouette. Eh bien, c'est écrit déjà deux fois dans cet article. Éric Michel, c'est beau d'aller chercher dans le champ lexical français, dans cette richesse de la grammaire, de la prose, de la littérature française, cette expression, eh bien, je trouve ça très très bien. De la ressortir un petit peu des limbes de l'histoire de la littérature. Voilà, c'est chouette. Xulu nous dit perso, j'utilise, j'ai pas 125 ans. Si, peut-être pas 123, mais peut-être 124 ou 123. Mais personne ne dit c'est chouette aujourd'hui. Qui dit c'est chouette? Levez la main. Vous êtes plusieurs à dire. Ouais, je suis désolé. Ben, ouais. Vous dites c'est chouette? Vous dites c'est chouette, c'est chouette. Sérieux? Vous dites tous c'est chouette? Ok. Bon, moi je vais bannir tout le monde. Allez, c'est parti. Let's go. Eh ben bravo, bravo à vous. À peine les lumières du mondial éteintes, les regards sont en effet déjà tournés vers l'objectif suprême. La compétition d'une vie, ben évidemment, ça c'est les Jeux Olympiques, bien sûr, parce qu'un mondial c'est top, mais les JO c'est le top du top, c'est tous les 4 ans. Les Françaises ont seulement 7 mois devant elles pour préparer LE rendez-vous, à surtout à ne pas rater les Jeux Olympiques à la maison. Les Olympiques, peut-être, on va faire la liaison. Est-il nécessaire de dire quelles sont les immenses favorites? Après, c'est du sport, tout est possible. Moi, je dis GG, bravo, les Françaises, les Jeux à la maison, oui. Samuel, laisse-nous être vieux, dit Lumia. Non, parce que l'âge, c'est dans la tête. Et je vous conjure, amis viewers, que vous ayez 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110, 120, 130, 140, 150 ans ce matin. Voilà. ne dites plus c'est chouette, parce que là c'est dans la tête, et franchement c'est chouette, c'est un petit peu daté. Dites, je sais pas moi, c'est bat, c'est ok, c'est in. Et là on est obligé d'écouter une chanson. T'es ok, t'es bat, t'es in, tu, nana, tu m'as l'air sincère. Ça c'est de la musique. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est masterclass. C'est pas fini, c'est pas fini. Vous irez voir, il n'y a pas une chanson au monde qui bat. T'es ok, t'es bat, t'es in. Ottawa, c'est le nom du groupe. Aucune chanson ne peut battre ce titre. Voilà. Voilà. Donc dites pas c'est chouette. Dites ça plutôt. Bon, c'est pas tout ça. Putain, on a fait zéro pause. 2h18 de live. Pi, 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 pi. Et maintenant, on va finir sur ce débat qui a animé la planète Twitter la semaine dernière en France sur les sources. Est-ce que les créateurs de contenu, les youtubeurs, les youtubeuses notamment, doivent indiquer leurs sources sur leur travail? Et si oui, comment? Voilà, un article vraiment bien fait que je vous recommande. Donc, Combini, article et débat qu'on a évoqué hier avec Augustin, alias The Great Review, qui était mon invité hier soir dans Simplay pour me faire découvrir Outer Wilds, voilà, et puis qui a été au cœur d'un débat, d'une polémique, d'un drama, comme on dit, sur Twitter la semaine dernière. Les youtubeurs doivent sourcer leurs vidéos, ça c'est la prise de position d'un journaliste qui s'appelle Pierre Bazin, dans Combini, qui en vrai écrit un article qui est extrêmement bien pensé, construit sur ce sujet. On n'est pas sur Twitter ou X, où en quelques mots, souvent maladroit ou malhonnête, on prend le col de quelqu'un en disant « Ouais, c'est de la merde ce que tu fais, et puis vraiment, tu devrais être puni, et puis c'est vraiment un scandale. » Voilà. Non, non, on est sur un truc un peu construit, réfléchi, sourcé, construit, pour le coup, quelque chose qui nous fait avancer, qui nous fait réfléchir, et pas qui dresse les uns contre les autres, comme certains aiment bien le faire, volontairement ou involontairement sur les réseaux. Donc, les youtubeurs, nous dit Pierre Bazin, doivent sourcer leurs vidéos, en tout cas, c'est son avis à lui. Et pourquoi ne le font-ils aujourd'hui que peu, parfois mal et surtout que maintenant? À la base, c'est une vidéo anglophone, donc Pierre Bazin nous raconte toute l'histoire qui a mis le feu aux poudres. Plagiarism and YouTube, une vidéo documentaire de près de 4 heures, c'est un travail énorme, publié par le youtubeur H. Bomber Guy, qui s'attaque à l'épineux sujet du plagiat sur YouTube et plus généralement sur Internet d'ailleurs, puisque ce n'est pas que sur YouTube. Des concepts volés aux histoires reprises sans crédit, en passant par des plagiats purs et simples ou de simples inspirations, l'ambitieuse vidéo dresse un panorama non exhaustif de ce qui se fait aujourd'hui sur le YouTube anglophone et international. La vidéo a été massivement vue en France et par un effet de rebond, elle a commencé à éveiller un autre débat en ce qui concerne la sphère YouTube française. Enfin, quand on dit débat, et que cela part de X Twitter, nous rappelle le journaliste, il est d'usage courant d'appeler ça un drama. Pour résumer très rapidement l'affaire, le créateur de contenu de Great Review a donc publié début novembre une vidéo d'1h30, mi-documentaire, c'est un travail de fou en vrai, un travail de grande qualité, ça c'est moi qui l'ajoute, sur la création et les coulisses de la populaire franchise vidéoludique Call of Duty, l'ami Augustin. Début décembre, Augustin, enfin TGR, est accusé par un tweetos, qu'est-ce qu'il est moche ce mot, d'avoir plagié ou du moins volontairement omis de citer ce qui serait conditionnel, sa source principale, à savoir le livre de Sébastien Delahaye, Call of Duty, les coulisses d'une usine à succès. Au final, TGR a bien cité le livre en description de sa vidéo, mais environ 10 jours après la publication de cette dernière. Avant le drama, ça c'est important, je m'arrête. On va pas refaire tout le drama sur Twitter. Bon, à un moment, il y a un tweetos qui a pris le col de Great Review et lui a dit « Ah là là, moi je dis que tu t'es inspiré largement de ce livre et c'est malhonnête, tu ne l'as pas cité dans tes sources. » Alors, pour être tout à fait précis, The Great Review l'a cité, pas le jour de la sortie, 10 jours après, Voilà. Mais avant que le drama n'explose, donc ce n'est pas le drama qui lui fait rajouter la source. Hein. Et là-dessus, il s'en a expliqué en disant que quand il publie une nouvelle vidéo, ce qu'il fait tous les 2, 3 ou 4 mois, c'est énormément de travail. Eh bien, c'est un petit peu dans la précipitation parfois, et il ne met pas tout tout de suite, et que parfois... Merci Thibaut, tout va bien. J'ai pas vu, mais tout va bien. Et parfois, bien, il ajoute des trucs après, notamment les sources. C'est ce que lui, il a expliqué. Quoi. Le journaliste dit passons, parce que ce n'est pas tant ces batailles par tweet et screenshots interposés qui nous intéressent ici. Il a raison, il n'a pas raison. Là-dessus. Le journaliste, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question des sources, c'est la question de fond, c'est le débat, et c'est pas les batailles des uns et des autres sur Twitter. Il a raison, il n'a pas raison. Il a raison parce que c'est aussi mon avis. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le fond du débat. Et il a pas tout à fait raison, parce que dans cette bataille de tweets, de capture d'écran, de screenshots, tout ça, il y a aussi des gens qui, parfois, en souffrent. Et je pense que Augustin, de Great Review, a beaucoup souffert de cette histoire, de voir son honnêteté intellectuelle eh bien, dénoncée, accusée, et un peu traînée dans la boue. Donc, ces fameux dramas sur Twitter, on peut les mettre de côté et dire on s'en fout, c'est pas important, mais je pense qu'ils sont problématiques parce que je crois qu'ils font quand même du mal aux gens. Passons. La vidéo de Great Review a fait 1,8 million de vues en un mois et demi, donc c'est juste énorme, quoi. Un peu une masterclass. Son auteur a été grandement salué pour son travail de recherche. C'est des mois et des mois de travail, mais aussi et surtout pour sa manière de raconter l'histoire. En effet, cette vidéo s'inscrit dans une nouvelle tendance sur YouTube, celle du storytelling. Depuis quelques années, ces vidéos plutôt longues rencontrent un succès retentissant sur la plateforme. Je pense qu'une partie importante du succès de Great Review est liée à la qualité de son travail de recherche, plusieurs mois de recherche, et aussi à sa capacité, son talent pour raconter une histoire, bien sûr. Alors il n'est pas tout seul, depuis quelques années ses vidéos plutôt longues rencontrent un succès retentissant sur la plateforme. Parfois ce sont des mini-documentaires plus ou moins étoffés, je vais vous lire après, hein, je vous ignore pas. D'autres fois ce sont plutôt des sortes d'enquêtes. Ces vidéos partagent toutes comme... Ah Samuel, applique-toi. Ces vidéos partagent toutes comme point commun le fait de raconter des histoires, des parcours, des coulisses ou encore des faits incroyables qui sont déroulés dans la vraie vie véritable, le tout incarné par le créateur de contenu en vidéo et ou avec une voix off audio. On peut citer pêle-mêle de nombreux créateurs. Le journaliste a bossé son article. Hein. Connu en France, Seb, Sofiane, comment on prononce là, je ne sais pas moi, Sylvequin. Alors moi, je sais qu'il est connu, mais j'avoue que je... On dit Sylvequin, comme ça s'écrit. Ah, je me disais bien aussi. Pourquoi c'est écrit avec un Q alors? Sylvain, d'accord. Pourquoi il y a un Q? Pourquoi? Parce que le... Quoi? Ah, Sylvain qui sera dans Popcorn demain, ok. C'est Sylvain en mode QWERTY. Parce qu'on est des jeunes. Parce qu'on aime le... Ok, d'accord. Parce que QWERTY. Pour se démarquer. Ouais. C'est une blague de jeunes, donc. C'est ça? C'est une blague de jeunes? Ça fait stylé. Ok, super. Donc, Sylvain... Ok, super, okay, je suis totalement dépassé, je comprends rien. Donc Seb, Sofiane, Sylvain, donc tout le monde sait qu'on dit Sylvain, hein. Moi je sais ça depuis la nuit des temps. Ou encore Simon Puech, ce sont des exemples parmi tant d'autres, mais il y a également le youtubeur numéro 1 Squeezie avec des vidéos histoire. Ce type de vidéo n'est pas si récent, mais elle rencontre un nouveau regain d'attention depuis quelques années avec l'arrivée d'autres créateurs comme Feldop, ça je connais. Ou encore côté histoire liée aux jeux vidéo comme avec Ego ou Combo. En substance, personne ne peut assurer la primauté de la narration d'une histoire vraie, hein. La question du plagiat sur Internet pour ainsi se résumer le plus souvent à deux questions. Qui en a parlé le premier sur Internet et qui a fait le plus de travail de recherche à ce sujet? Je pense que c'est plus compliqué que ça, mais bon, ça peut être résumé comme ça. Aujourd'hui, il n'est pas difficile de vérifier, grâce à Internet bien sûr, en quelques recherches, les précédentes apparitions d'un sujet sur Internet. On s'aperçoit bien vite que le sujet d'une populaire vidéo storytelling a souvent été déjà traité sur YouTube, au moins dans une autre langue. Si le travail de base n'est pas forcément une vidéo YouTube, ça peut être aussi un article de presse, ça peut être une page Wikipédia, ça peut être un bouquin, hein, ou encore un témoignage sur un réseau social comme Twitter ou Reddit. Cela n'enlève pas nécessairement le talent de ceux qui arrivent après, parce qu'il y a beaucoup de travail, et ça c'est très bien que l'article le dise, pour celui qui veut expliquer avec ses mots, avec son style, écriture, montage aussi, une histoire particulière. Mais cela, dit ce journaliste, ne doit pas empêcher les créateurs de contenu, quelle que soit leur valeur ajoutée, de citer correctement ceux qui ont déjà travaillé le sujet et qui les ont nécessairement mis sur la voie. Ça, c'est l'avis de ce journaliste. Est-ce que les youtubeurs doivent sourcer ? Lui dit, donc lui c'est Pierre Bazin, lui dit, ce ne sont pas des journalistes, bon, qui doivent sourcer les informations qu'ils nous donnent pour que nous puissions vérifier que ce soit des bonnes informations. Ce ne sont pas des journalistes. Hein. Ce ne sont pas des académiciens. Hein. Ce ne sont pas des chercheurs. Ce ne sont pas des universitaires, je me permets d'ajouter. Donc, là, on pourrait dire, bah, dans ce cas-là, pas besoin de sourcer. Néanmoins, attention, le néanmoins arrive. Leur influence est aujourd'hui trop importante pour qu'ils prennent du recul avec cette notion de source, mais aussi de vérification de ces sources. Et c'est surtout là que ça bloque. Donc, ce serait en raison de l'importance, de l'influence grandissante des créateurs de contenu, des youtubeurs, qu'en fait, il faudrait ajouter de la rigueur, notamment dans le respect et la citation des sources. C'est la thèse, vous l'avez compris, de ce journaliste. Quand Internet a explosé au début des années 2000, nos professeurs, les documentalistes de tous les sites de France étaient les premiers à nous dire que de nous méfier de ce qui se racontait sur Internet, de ne pas croire tout ce qu'on lisait sur Wikipédia, de ne pas copier-coller le moindre contenu du web pour nous exposer, sauf qu'à l'époque, ces figures d'autorité n'étaient pas plus formées que nous à l'information sur le web, et ces figures d'autorité, ces créateurs de contenu, se sont formés sur le tas et ont appris en même temps que nous. Et donc ce journaliste fait la différence entre avant et après. Et aujourd'hui, à l'heure de la recrudescence des fake news, et sans parler de l'avènement des contenus générés via l'IA, la vérification de l'information est d'autant plus d'actualité. Donc la thèse de ce journaliste, c'est longtemps, parce que c'est un métier nouveau, parce que l'influence de ces créateurs de contenu n'était pas très très importante, eh bien la question des sources n'est pas posée. Mais aujourd'hui, au vu de l'influence grandissante, des audiences grandissantes, de ces travaux qui parfois sont des travaux d'information, même s'il y a du divertissement dedans, eh bien ces youtubeurs doivent accepter, comme les journalistes le font dans leurs articles, comme les chercheurs le font, voilà, même s'ils ne l'ont pas fait dans le passé, d'introduire la notion de source, de respect des sources, de vérification des sources dans leurs vidéos. C'est sa théorie, c'est sa thèse. On a vu d'ailleurs des exemples. En 2018, Squeezie avait été épinglé pour avoir partagé en vidéo une théorie du complot sur les pyramides d'Égypte. La chaîne Les Revues du Monde, hein, l'excellente Charlie Danger, lui avait d'ailleurs répondu pour corriger le tir, permettant au passage à sa créatrice d'acquérir un tout nouveau public. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Encore. Je me suis moqué du journaliste du Parisien qui disait « c'est chouette » en disant « plus personne depuis 1982 dit « c'est chouette ». Vous m'avez pris à partie, vous m'avez pris par le col, vous m'avez traîné dans la boue en me disant « mais moi je dis c'est chouette, qu'est-ce que tu racontes ?» Article dans Combini, le gars dit « c'est chouette ». Je vais me jeter par la fenêtre du rez-de-chaussée qui est derrière moi. C'est chouette. Tout le monde dit c'est chouette. Il n'y a que moi qui dis pas c'est chouette. Merde. Et en plus, j'ai banni tout le monde. Mais c'est quoi ce revival du c'est chouette? C'est fou, ça. Je suis très déçu. Je tombe de haut. Dire chouette, c'est cool. Bayushi, merci pour le soutien. 3D Tech Games, merci pour l'abonnement. Vous me remontez le moral parce que vraiment, là, je ne comprends pas. Le c'est chouette de partout, là, je ne comprends pas. Bon. Et là, c'est chouette. Squeezie avait ensuite supprimé sa vidéo en s'excusant. Cet été, c'est le vidéaste Seb, ex-Seb Lafrite, hein, qui avait été piégé par une fake news sur Wikipédia. Ils ont été excusés par la suite, mais sur son TikTok, pas sur YouTube. Le média d'origine sur lequel l'info fausse donc avait été divulguée, et ces exemples ne manquent pas. Donc la question des sources, depuis quelques années, on se la pose, dit le journaliste. Une partie de l'audience des créateurs de contenu peut prendre pour argent comptant ce que peut lire un youtubeur, et c'est là que leur responsabilité est en jeu. Donc là, on est au-delà de la question de la citation des sources. Là, le journaliste nous dit que les créateurs de contenu doivent vérifier les informations qu'ils mettent en avant. Oui. Oui. Pronoya dit l'erreur sur Wikipédia a été corrigée, Combini n'est pas à jour. t'as mal lu ou j'ai mal lu. Combini dit pas que l'article de Wikipédia contient toujours une faute, mais qu'au moment où le créateur de contenu, donc c'était qui, c'était Squeezie ou c'était Seb l'avait cité, il y avait une faute dans l'article. Et à aucun moment l'article dit que l'article de Wikipédia n'a pas été corrigé. Donc ou je lis mal, ou tu lis mal, ou on lit mal tous les deux, mais dans ce cas-là on a besoin de lunettes. Une partie de l'audience des créateurs de contenu peut prendre pour argent comptant ce que dit un youtubeur, et c'est là que la responsabilité est en jeu. Personne ne peut contester ça, effectivement. Qu'est-ce que dit mon amoureuse? Ça c'est prioritaire surtout. Ok, d'accord. Ok. Oui, que les créateurs de contenu vérifient leurs informations qu'ils mettent en avant, ça me semble bien. Ok. Après, ils peuvent vérifier sans forcément mettre toutes les sources. C'est deux choses. Vérifier les sources et indiquer les sources, c'est deux choses différentes. Mais bon, lui estime qu'il faut faire les deux. Le drama autour de Great Review aura donné une certaine impulsion du sourcing dans le milieu. Hein. Le sourcing qui est donc le fait de sourcer, pas de faire une compétition de sourcing, hein. Ça n'a rien à voir. Les toutes dernières vidéos Storytelling Stories sorties il y a quelques jours sur YouTube se voient désormais étoffées de sources dans leur description. Alors que les vidéos précédentes ne l'étaient pas, quasiment pas. L'auteur de cet article, il est allé voir les vidéos postées ces derniers jours par certains créateurs de contenu en France sur YouTube. Eh bien, il y a des sources alors qu'avant, il n'y en avait pas. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant. Squeezie avait sourcé sa dernière vidéo histoire qui parlait du dictateur turkmène Niazov. Toutefois, un rapide tour sur Wayback Machine, Internet Archive, montre que l'équipe du premier YouTuber de France n'a attendu que ces derniers jours pour ajouter les sources de nombreuses autres vidéos précédentes de cette catégorie histoire. Donc manifestement, certains sont en train de rajouter des sources un petit peu, de façon un petit peu accélérée là, sur des vieilles vidéos. Voilà. C'est ce que dit le journaliste. Ex-Seb Lafrite, a récemment reçu des critiques comme quoi ses vidéos storytelling consistaient en de simples exposés d'anglais. En gros, il pompait complètement des contenus anglais et les faisait en français. Le journaliste dit « c'est pas le cas ». Et même si c'était le cas, ce serait pas bien grave. Ouvrir son public à un sujet, même en surface, est bénéfique. Mais c'est encore mieux quand on lui donne envie à son audience d'aller plus loin et d'aller pouvoir consulter les sources qui ont permis de faire ce travail. Je vois que Defecator officiel a travaillé sur le sujet, comme vous pouvez le lire dans le chat. C'est là que les youtubeurs ont leur carte à jouer, à mieux sourcer. Et à leur façon, tout le monde y gagne. Les bons exemples existent déjà. On les trouve d'ailleurs souvent chez des vidéastes qui ont été en lien ou sont toujours en lien avec le travail académique, le travail universitaire, c'est intéressant. Des gens qui ont fait des études dans ce secteur. Nota Bene, en France, Manon Bril sont des vulgarisateurs qui sourcent extrêmement bien leurs vidéos, dit le journaliste de Combini. Une autre méthode souvent complémentaire consiste à créer un hub dédié à toutes les sources consultées dans la fabrication d'une vidéo. Exemple récent, le vidéaste Sylvain, tout le monde sait qu'on prononce Sylvain, j'espère, hein, sinon vous êtes vraiment des gens pas chouettes, a créé une page HTML qui compile toutes les sources que lui et son co-auteur ont consultées pour écrire leur excellente vidéo documentaire sur l'histoire des studios Valve. Ce n'est pas le seul, on peut aussi citer Charlie Danger, qui a recours à ce genre de compilation de sources sur GDOX. Voilà. Je vais à la conclusion et après je vous lis, parce que ce débat, je le trouve passionnant. Enfin, la meilleure façon de rendre le crédit à ses sources, de saluer tous les travaux effectués en amont, c'est encore d'en parler directement dans la vidéo, soit là où elle sera le plus visible, c'est vrai. Les gens ne vont en effet pas souvent voir la description et se contentent dans la vidéo seule. À l'heure où TikTok s'appuie justement sur la copie avec le phénomène de tendance, hein, tout le monde fait le même truc au même moment, les mêmes musiques, les mêmes chorés, les mêmes gimmicks, les créateurs originaux ont leur carte à jouer sur YouTube pour proposer des vidéos complètes et sourcées. Paradoxalement, c'est parce qu'on sait d'où vient une information que le travail de celui qui la transmet n'est que plus pertinent. Eh ben, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Et je reviens à ce que j'ai déjà dit en tout début de stream quand on a commencé à parler de tout ça. Je pense qu'il faut distinguer entre un article construit, documenté, réfléchi, pensé, avec une intention qui est une intention d'informer, de provoquer un débat et pas de traîner dans la boue et d'agresser. Et un tweet qui va en gros vouloir faire passer le même message, mais en quelques mots et avec un ton qui est qui n'est pas celui du débat, de la réflexion, voilà, de faire progresser le truc, mais à un moment de se payer quelqu'un, de façon volontaire ou involontaire, maladroite ou malhonnête. Ce débat sur les sources, je le trouve passionnant, et je pense que c'est ce journaliste, Pierre Bazin, il a raison. Moi, je crois, mais je ne suis pas un spécialiste de la création de contenu sur Internet, hein. Je suis juste un tout petit acteur, mais je ne suis pas un spécialiste. Je pense qu'effectivement, à la lumière de ce que dit Pierre Bazin, c'est-à-dire que ben, longtemps, les youtubeurs n'ont pas sourcé leurs vidéos, les informations qui se mettaient en avant de ce moment, parce que c'était c'est un métier qui, assez récent, et ces youtubeurs n'étaient ni journalistes, ni universitaires, et donc par leur formation, n'étaient pas forcément amenés à se poser la question, mais au vu de l'importance grandissante de leurs audiences, avec des informations qui peuvent être prises telles quelles, reprises telles quelles par leurs audiences, peut-être que ce travail de 1, vérification des sources, 2, notification, écriture des sources, en disant, ben voilà, moi, j'ai trouvé cette info là, je me suis inspiré de tel livre qui m'a donné envie d'aller chercher et tout, je pense qu'effectivement, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour les viewers, pour les consommateurs de ce type de contenu. C'est bon aussi pour les youtubeurs qui font un chouette boulot. Et là, dans l'article, on a trouvé, on a parlé que de youtubeurs qui faisaient un bon travail, en montrant un petit peu le processus de travail et en montrant la somme de travail qu'il peut y avoir derrière et la rigueur intellectuelle qui a été de consulter, de se documenter, de vérifier. Voilà. Donc je pense que cet article, il a raison. Mais je fais une différence entre cet article qui pose les choses de façon assez posée, qui ne cherche pas à juger, à dénoncer, à jouer le justicier, et ce qui se passe parfois sur Twitter avec des gens qui, intentionnellement ou pas, par maladresse ou malhonnêteté, eh bien, abordent un sujet sur le ton du justicier, de la justicière, en prenant un témoin en quelques mots. Pas développé, puisque Twitter n'est pas l'endroit où on est là pour expliquer de façon intelligente, subtile, comme cet article essaie de le faire, mais en quelques mots, à juger quelqu'un et à le dénoncer à la vindicte populaire en disant bon, regardez, lâchez-vous, moi je vous dis que cette personne est l'incarnation du mal parce que fait très mal son travail. Voilà, c'est un fait d'ailleurs, je pose pas une question, c'est pas un débat, allez-y maintenant, lâchez-vous, puisque Twitter marche comme ça. Voilà, moi je fais la distinction entre ces deux choses. Je pense qu'on est un petit peu au cœur du truc. Ah, merci Bayushi. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet, des sources, de la manière dont The Great Review a été au milieu d'une sauce la semaine dernière sur Twitter, de la manière dont il s'est défendu, et de ce que dit cet article. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Défécateur officiel, dont on apprécie beaucoup le travail, dit ici le problème c'est d'avoir répondu à la polémique, donc tu parles de la vidéo de 17 minutes qu'Augustin a enregistrée pour répondre au tweet accusateur. Felgraf a fait un trade où il a montré chiffre à l'appui que s'il n'avait pas répondu à l'attaque il n'y aurait pas eu cet effet Streisand. Alors oui et non, oui quelque part il a donné de la lumière, de la puissance à cette accusation en y répondant, et peut-être que le truc serait passé à la trappe comme ça assez vite, mais je dis qu'il faut aussi se mettre à la place du créateur de contenu, en l'occurrence Augustin, qui a été meurtri, voilà, puisque c'est son travail, la qualité de son travail, son honnêteté intellectuelle qui a été remise en cause, des accusations qui sont assez graves. Et à un moment, on n'est pas que des esprits éthérés, on est aussi des humains avec des émotions, et je pense qu'il a été très meurtri et très touché par ça. Et c'est très dur de ne pas réagir quand vous êtes ainsi publiquement montré du doigt, dénoncé, mis à l'index sur quelque chose qui est votre vie au quotidien, votre passion au quotidien. Voilà. Même si la meilleure façon, et c'est dommage d'ailleurs, de ne pas nourrir la polémique, c'est de ne pas y répondre. Alors que le débat est intéressant. Sauf que il n'est pas évident, il n'est pas sûr que toujours les gens qui lancent ces accusations sur les réseaux cherchent le débat, mais soit des gens très très convaincus de ce qu'ils pensent, avec assez peu d'ouverture au débat et à l'échange, et soit là pour dénoncer et pas pour ouvrir le débat et essayer de comprendre la façon de penser et de réfléchir des autres. Quoi. Meurtri, c'est un peu fort comme terme. Non, c'est pas fort, c'est pas fort. C'est sa vie, hein, c'est son travail, hein. Il s'est un passionné, quoi. Il ne fait que ça. Hein. Donc quand quelqu'un dit sur Twitter ce que tu fais. C'est-à-dire, c'est... Alors évidemment qu'Augustin a une vie personnelle, je lui souhaite à côté. Mais sa vie professionnelle, c'est de faire ça. Et c'est une passion. Il y met beaucoup de lui. Quand quelqu'un te dit littéralement ce que tu fais, c'est de la merde. Je suis désolé, mais ça meurtrit. Je vois pas quel mot tu peux utiliser autrement. Quoi. Oui, je comprends. Alors, vous êtes plusieurs comme Samu Kunchan ou Drozax dit non, en vrai, ce truc sur les sources, ça m'intéresse pas tellement. Drozax dit c'est peut-être très mal, mais honnêtement, que la vidéo soit sourcée ou pas, j'en ai rien à cirer. Je consomme le contenu en grande partie parce qu'il provient d'un créateur en particulier. La vidéo sur COD, si ça n'avait pas été de TGR, je l'aurais pas regardé. Même chose pour ta revue de presse. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. C'est juste qu'on est dans un truc de rigueur qui est chiant, en vrai, mais qu'il faut peut-être faire quand même pour montrer justement la rigueur de son travail. Augustin, aujourd'hui, il le dit lui-même, il est dans une espèce de croisade pour dénoncer l'hypocrisie et les jugements hâtifs sur Twitter et le côté justicier de certains et de certaines. Moi, mon sentiment, que c'est un combat qui est perdu d'avance, que Twitter, c'est une jungle, que c'est n'importe quoi, qu'il y a un algorithme qui donne une prime, on le sait, au clash, au buzz, à la dénonciation, et pas à la réflexion, et pas au débat, et pas à l'intelligence. Donc, si, pardon, mais essayer de corriger ça à tout seul... Et se partir dans ces combats, en vrai, ça ne sert à rien. Les gens qui te prennent par le col ne veulent pas échanger avec toi. Ça n'est pas vrai. Ils ne veulent pas du débat. Ils ne veulent pas te retrouver autour d'une table de façon publique pour échanger, que vous échangez calmement, de façon intelligente sur le sujet. C'est pas ça qu'ils veulent. La plupart du temps, ça n'est pas ça. Donc, je pense que c'est pas la peine de te lancer dans ce débat. Je pense que c'est de la perte de temps. Et encore une fois, tu files le troll, tu nourris le troll, et en fait, tu nourris la polémique. La polémique dont tu te plains par ailleurs. Voilà, j'ai mis du temps à le comprendre, aujourd'hui je réponds plus à ces trucs-là, moi. Parfois je me dis d'ailleurs, quelqu'un qui m'attaque vertement sur Twitter, la première réaction, c'est une réaction d'ego, c'est une réaction quelqu'un qui dit ah ben, arrête, j'arrête pas de bosser, qu'est-ce que tu m'emmerdes, t'as qu'à bosser toi aussi, faire tes trucs. Et puis souvent dans un deuxième temps, tu te dis bon, il le dit de façon pas sympathique, il le dit de façon un peu violente, et puis il y a quand même un truc pas cool dans sa démarche. Mais sur le fond, il n'a pas tort. Souvent, je me dis ça. Et ça me fait réfléchir sur mon travail. Sauf que, une fois que j'ai dit ça, si après, je rentre dans le débat pour répondre en disant « Ah, c'est pas mal ce que tu dis, ça c'est intéressant, peut-être qu'il y a matière à débat », tu te rends compte très très vite que les gens ne sont pas du tout là pour débattre, en fait. Voilà. Juste pour que tu leur dises « Ouais, t'as raison, en fait, je suis une grosse merde. Et t'es tellement plus rigoureux, intelligent que moi, quoi. » Donc ça sert à rien. Pas sur Twitter, en tout cas. Sur Twitch, ouais, plus, ouais. Merci Soleil, merci Bayushi, merci Soleil. Merci Largo 13 pour le deuxième abonnement. Comme le dira un ami pâtissier, nous dit écrivain, profite, troll. Profite, troll. Vous l'avez ? Je vous lis, parce que c'est un sujet intéressant. Le pire, c'est que, pour en avoir parlé avec plein de gens dans ces univers, je pense que la plupart des gens à l'origine de ces polémiques-là, appelez-les comme vous les voulez, mais un peu quelque part les justiciers, l'Internet, je pense qu'ils sont, pour beaucoup, ils sont convaincus, un, d'avoir raison, et deux, d'être dans le camp du bien, et de ne pas comprendre qu'on ne soit pas d'accord avec eux, quoi. Je suis persuadé que ce n'est pas une volonté d'être malin ou d'être fourbe. Ou... Je pense que ce sont des gens qui sont convaincus d'avoir raison et de partager leur opinion avec le reste de l'humanité. Alors, c'est une façon de les dédouaner un petit peu, et en même temps pas tellement, parce que moi je pense que les gens convaincus, très convaincus, sont parfois un peu dangereux. Les gens très 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 convaincus, et vous en connaissez, et vous les identifiez, vous les lisez, vous en avez autour de vous, vous les voyez sur les réseaux, les gens très 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 convaincus, qui sont un peu persuadés d'avoir raison, voire souvent raison, voire toujours raison, sur un peu tous les sujets, et pardon, mais sur les réseaux et sur Twitter, on en voit beaucoup, c'est très dangereux. Je vais être très grandiloquent, mais tous les conflits toutes les batailles, toutes les guerres à travers l'histoire de l'humanité ont été provoquées par des gens qui étaient tout à fait sûrs d'avoir raison contre les gens d'en face, quoi. Donc je vais très très loin, hein. Je dis pas que ces gens provoquent des guerres mondiales sur Twitter, mais les gens très très convaincus, même s'ils n'ont pas de mauvaises intentions, je m'en méfie. J'ai beaucoup de défauts. J'ai une petite qualité, c'est que je doute de tout, y compris de mes propres opinions, et je suis prêt à les remettre en question, en tout cas d'échanger. J'ai des convictions, mais je ne dis pas que ces convictions ne peuvent pas évoluer à la faveur de nouveaux arguments, à la faveur de nouvelles découvertes, à la faveur de travaux, de recherches scientifiques, par exemple, d'échanges avec d'autres. Voilà. J'ai mes convictions, parfois elles ne bougent pas depuis très longtemps sur certains sujets, et parfois elles évoluent. Mais sur Twitch, en 3 ans, j'ai évolué sur certains sujets de société, à force au quotidien d'échanger avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Bon. Mais parfois, je trouve qu'il y a des gens qui sont un petit peu bien convaincus et qui n'ont pas super envie d'échanger. Ça me fait. Voilà. Alors que ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention chez eux, quoi. Quelle heure il est ? Bon, on a fait un petit peu le tour du débat, hein, même si on pourrait le faire durer pendant des heures. Il reste 20 minutes. Il reste 20 minutes. Non, le mot chouette, je le trouve pas chouette. Arrêtez avec ça. Il reste 20 minutes avant qu'un journaliste vienne ici, de France 5, pour me faire participer à un petit clip où je vais danser, chanter. Voilà, j'ai une petite... Non, pas du tout. Un petit clip, en fait, un petit message pour une émission que j'aime beaucoup, qui s'appelle C'est médiatique sur France 5, voilà, qui est une émission d'actualité, de décryptage des médias sur France 5. Et donc, ils changent d'horaire, je crois. Et donc, ils ont demandé à des journalistes, des présentateurs amis, des gens qui aiment bien leur contenu, s'ils voulaient bien enregistrer un petit message. Eh bien, justement, il y a une personne qui vient là, dans un instant, dans 20 minutes, à la maison. Voilà. Et je trouve ça super chouette, en vrai. Exactement. Donc, on attend cette personne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Un petit Valorant. Un petit Valorant ? Rapide ? Hein ? Rapide, rapide. Rapide, rapide, pour se détendre, pour se détendre.